bien, on va commencer la séance, en fait, en espérant que ça fera venir M. Mira. On est très heureux de vous accueillir pour la deuxième année du séminaire de la littérature et de l'or, la première séance.
L'année dernière, nous avons reçu un ensemble d'invités grâce auxquels on a essentiellement exploré les rapports entre littérature et discours de savoir, en particulier autour de la question de la narrativité. C'est un des objets... Ah, le voilà. C'est tout. Je continue le temps de qu'il arrive à la table. Donc c'est un des objets autour desquels la question des rapports entre la littérature et c'est dehors s'était cristallisée. Et on a décidé d'inviter François Cusset à ouvrir le nouveau programme pour déplacer assez radicalement cette question, puisque l'ouvrage très célèbre maintenant dont il est l'auteur, French Theory, parle en particulier de l'expansion du paradigme narratif, c'est-à-dire d'une certaine vision de la littérature à l'ensemble des sciences humaines telles qu'elles sont perçues aux États-Unis. Donc il nous a semblé qu'il pouvait nous aider à déplacer le questionnement pour cette année et à réinscrire la littérature dans d'autres dehors, plus politiques, plus critiques, qui nous permettaient de relancer la réflexion. Voilà.
Et je vous rassure quand même, vous reverrez la question de la narrativité, notamment avec la présence d'Alex Farge le 12 avril, si je me souviens bien. Et je vous rappelle en fait que le programme, on va peut-être avoir des petites de mises à jour de calendrier, sera donc publié en ligne, fabuleux, ainsi que si Dieu prête vie à ces machines électroniques qui doivent enregistrer, donc sera diffusé en ligne pour ceux qui voudraient revoir ou réentendre tel ou tel point de nos discussions. Voilà. Donc on va donner la parole à Jean-Louis Janel.
Je vais présenter François Cusset. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans le parcours de François Cusset, c'est son caractère relativement atypique, puisqu'ayant débuté par un cursus tout à fait traditionnel en France, une cagne normale sup en 1988, et s'être partagé, comme beaucoup d'entre nous, entre la philosophie et les lettres, il a vite bifurqué afin d'étudier à Sciences Po pendant 2 ans, puis de partir à New York pour y créer avec 2 amis une agence de presse qui existe toujours d'ailleurs, apparemment. François donc est resté 10 ans à New York, travaillant pendant sa coopération pour le service culturel chargé du livre et préparant ensuite le salon du livre en 1996, puis dirigeant de 1996 à 1999 le bureau du livre. Le bureau du livre, c'est un organisme créé par Jack Lang qui dépend du syndicat des éditeurs et qui est chargé essentiellement de promouvoir la littérature française aux États-Unis et de manière plus concrète de vendre les droits des livres venus de l'Hexagone. À son retour en France, en 2000, il a poursuivi le travail d'enquête qui avait été commencé aux États-Unis, notamment en conduisant toute une série d'interviews des principaux acteurs de French Theory. Il a publié ensuite, assez rapidement, en 2002, aux presses universitaires de France, un ouvrage qui a fait pas mal parler de lui, Queer Critics. L'ouvrage est sous-titré « La littérature française déshabillée par ses homolecteurs ». C'est à ce moment, la théorie queer, donc, la théorie qui est la plus innovante, la plus étonnante, ou d'une certaine manière, la plus détonnante pour un public français. Le mot queer circulait déjà un peu à ce moment, mais aucun texte n'était disponible en français, et il était avant tout connu de ceux qui travaillent sur les questions des rapports entre sexe et genre, essentiellement. François est actuellement titulaire d'une thèse en sciences de l'information et de la communication. Il travaille principalement dans 2 organismes, une école de relations internationales et l'université de Columbia à Paris, c'est-à-dire Rideau. C'est un collaborateur régulier de Tout arrive, l'émission de Marc Vinchet sur France Culture, et il publie dans Critique, dans le magazine littéraire ou dans Livre Hebdo. Tous ces éléments ne relèvent pas vraiment de l'anecdote biographique. Ils permettent de comprendre le contexte dans lequel peu à peu est né, a été élaboré ce texte donc, dont on va parler aujourd'hui, le French Theory. C'est-à-dire, premièrement, un va-et-vient ininterrompu entre philosophie et littérature, va-et-vient qui vraisemblablement aurait été interrompu ou tout du moins freiné si François avait fait son parcours universitaire en France. Deuxièmement, une connaissance pratique des flux culturels entre la France et les États-Unis, puisque la French Theory, ce qu'on appelle la French Theory, c'est avant tout un marché de livres, de textes, qui ont, au gré des modes intellectuels, envahi les campus américains, qui ont servi en quelque sorte de petits livres rouges des tenants de la déconstruction, des tenants des cultural studies. Et troisièmement, et surtout, la possibilité de mener sur le terrain une enquête assez longue sur une enquête approfondie sur un éditeur ou une revue au départ et un éditeur ensuite particulier, c'est Sémiotexte. Donc une étude qui sert de colonne vertébrale en quelque sorte à l'ensemble de l'ouvrage. Et c'est notamment à la fin du chapitre 3 de French Fury qu'on retrouve les principaux éléments de cette enquête, de cette étude d'un cas très particulier, donc d'une revue qui est ensuite devenue maison d'édition dans les années 80 et qui est centrée essentiellement autour d'une personnalité assez fascinante, celle de Silvère Lautringer, et qui a servi en quelque sorte de porte d'entrée à tout un ensemble de textes ou d'auteurs comme Deleuze, Baudrillard, Guattari, Lyotard ou Virilio par exemple. On voit que le parcours de François Cusset reflète en partie ce dont il est question dans French Fury, à savoir ce croisement entre deux traditions intellectuelles. Et l'importation de tout un corpus de savoir à l'intérieur du système universitaire américain et sa réappropriation en fonction de problématiques qui sont novatrices à l'époque, l'a en quelque sorte conduit à montrer qu'une grande partie de l'histoire intellectuelle française s'était en quelque sorte déroulée en dehors de nos frontières, en dehors de l'Hexagone, et qu'il était nécessaire en quelque sorte de s'expatrier physiquement et mentalement, comme l'ont fait pas mal d'intellectuels d'ailleurs, comme Derrida, pour continuer, pour renouer le fil de notre propre histoire intellectuelle et pour prendre la mesure de l'isolement qui a été celui de la France dans les années 80 et 90. L'intérêt du livre de François Cusset, c'est donc moins de présenter les théories de penseurs comme Édouard Said, par exemple, ou Judith Butler, penseurs qu'on croyait plus ou moins connaître sans même les avoir lus, mais qu'on avait déjà l'impression de connaître, que d'analyser de manière assez précise, et là c'est tout à fait novateur, la sociologie du champ universitaire américain, et d'identifier les raisons pour lesquelles les penseurs français ont pu cristalliser à un certain moment un certain désir d'innovation théorique et de contestation politique, les deux. Innovation politique et contestation théorique étant indissociables aux États-Unis. Pour les lecteurs français, c'est évidemment l'effet d'anamorphose qui est le plus frappant, et il tient avant tout à ce processus de reconfiguration d'un discours qui est à l'origine très hétéroclite, puisque des penseurs comme Derrida, Lyotard ou Baudrillard n'ont a priori pas grand-chose à voir, ou en tout cas se situent dans un contexte particulier qui est le même, mais ne développent pas une pensée qui est exactement la même. Donc cette reprise, cette réappropriation de ce corpus très hétéroclite à l'intérieur d'un univers clos, extrêmement structuré, qui obéit à des lois qui lui sont propres et que François donc analyse assez précisément. Donc French Fury, c'est en quelque sorte cette histoire d'un mécompte, mais d'un mécompte qui est extrêmement productif, extrêmement fécond intellectuellement, comme l'écrit François dans sa conclusion. Le texte a obtenu un très beau succès, il se vend apparemment très bien, et ce qui n'est pas si courant finalement pour un ouvrage qui a cette exigence intellectuelle. Et il est arrivé, il faut le souligner, à un tournant de la vie intellectuelle française. Puisque alors qu'il n'y a encore pas si longtemps finalement, l'isolement hexagonal était une réalité bien affirmée, bien concrète, on observe depuis un peu plus d'un an, c'est-à-dire à peu près la publication de French Fury, un mouvement de traduction, un soudain intérêt pour tout ce qui se fait en dehors de l'Hexagone, tout ce qui se fait outre-Atlantique. Il y a toute une série de textes qui sont publiés, qui sont traduits. On avait déjà certains textes d'Edouard Saïd, mais on continue à le traduire. On a à présent pas mal de textes de Judith Butler. Chauncey, le grand classique de Chauncey, vient d'être traduit par Ribon, c'est le Gay New York, qui est l'ouvrage certainement le plus essentiel sur les études gays et lesbiennes. Bientôt Zizek va être traduit, donc il y a tout un phénomène qui se fait, tout un mouvement. Il y a donc un point de rupture, un point de passage dont le livre French Fury peut être le repère. Il convient de préciser quand même pour finir que c'est un phénomène qui est partiel, puisque les principales figures de la théorie littéraire au sens un peu restreint qu'on donne, enfin de la théorie littéraire au sens qu'on donne à ce terme ici en France, ne sont pas traduites et ont certainement très peu de chances d'être traduites à l'avenir. Ce seraient des auteurs comme Melman, comme Bloom, Harold Bloom, comme Shoshana Feldman, Stanley Fish, Frederick Jameson, tous ces grands classiques de la théorie littéraire au sens plus strict ne seront certainement pas traduits. Le seul finalement qui a été traduit, c'est Paul Demant, et c'est certainement en raison des liens d'amitié qui le lient avec Derrida et donc de la possibilité de le traduire chez Galilée. Sinon, tous les autres textes ne sont pas disponibles en quelque sorte. Donc il y a une limite à cet intérêt en quelque sorte pour la French Fury vue du point de vue américain.
Pour cette introduction très complète, c'est flatteur et intimidant à la fois, impressionnant. Ce que je vais faire très informellement, d'ailleurs je m'excuse pour mon état de fatigue, les éventuels bégaiements qui pourraient s'en suivre, c'est essayer de plonger un peu dans les dessous du quatrième chapitre de ce livre, c'est-à-dire le chapitre où j'aborde la question de cet objet bizarre hybride américain de theory et non pas de théorie, donc la théorie littéraire ou la théorie tout court, telle que ces décennies de grandes fêtes intellectuelles dans le champ des humanités américains l'a produit. Alors évidemment, on aurait pu, puisqu'il va s'agir des États-Unis, après tout, avoir un traitement beaucoup plus politique de la chose, qui est indirect mais possible, se demander dans quelle mesure cette aventure-là, qui a l'air d'être une aventure tout à fait restreinte au campus, une aventure intellectuelle peut-être passagère, aurait un rapport avec le changement de l'ordre politique américain 15 ou 20 ans plus tard. Ce rapport-là, je l'évoque, je ne fais que le suggérer dans le livre, puisqu'effectivement, les grands penseurs néo-conservateurs américains, ceux qui vont se retrouver les conseillers de l'administration Bush, ont fait leurs premières armes à l'intérieur de l'université sur ces questions culturelles, sur la question du relativisme théorique, contre Derrida, Foucault et Deleuze comme ennemis de l'Occident et de l'universalisme des Lumières. Donc finalement, ces arguments qu'ils ont en quelque sorte mis à l'épreuve à l'intérieur d'un débat académique sont exactement ceux qui finiront par justifier l'invasion de l'Irak et même la réélection de Bush, mais ce n'est pas de ça qu'il va s'agir. Même si c'est sans doute lié. Juste deux tout petits points peut-être, Jean-Louis. D'abord, peut-être que ton optimisme était un tout petit peu excessif sur le coup du basculement ou de l'inversion de courbe dans le champ intellectuel français. Effectivement, ce qu'on peut noter en tout cas depuis 2-3 ans, c'est un début de rattrapage de retard, en tout cas en termes de traduction, puisqu'il est choquant de constater que un grand nombre d'intellectuels peut-être nourris de théorie française, mais qui ont une œuvre proprement américaine, sont traduits depuis le début de leur œuvre en espagnol, en allemand, en italien, et ne l'étaient pas en français. Et c'est vrai qu'il y a un début de rattrapage, Judith Butler étant peut-être le cas le plus spectaculaire, puisque on parlait beaucoup d'elle sans pouvoir la lire, puisque rien n'était traduit. Donc voilà, je parlerai de début de rattrapage plus que d'inversion de courbe, puisque on n'est malheureusement pas sorti de l'ornière. Et un tout petit point de détail, Paul Demant est effectivement davantage présent que les autres, parce que la fin de son œuvre a été traduite, et surtout parce que le début de son œuvre est écrite en français. Oui. Puisqu'il est belge de naissance, et que ça facilitait effectivement le... Enfin, ces deux premiers livres sont une combinaison d'articles parus dans Critique, Les Lettres Françaises, enfin dans des revues du champ français. Voilà. Maintenant donc, quelques remarques, un peu dans le désordre, sur cette question de la théorie et l'approche un peu interdisciplinaire que j'ai tenté d'avoir pour percer cet objet hybride et bizarre de theory aux États-Unis. Et pour se relier au très beau thème de ce séminaire, je pensais en arrivant à la phrase de Deleuze qu'il fallait produire la philosophie du dehors, et qu'en quelque sorte, ce qu'ont fait ces curieux américains, c'est de tenter de produire la littérature du dehors, si on peut prendre cette expression, d'investir des sites extérieurs au canon littéraire pour effectivement modifier de l'intérieur ce canon. Canon littéraire qui inclut, comme on le verra, les textes critiques et théoriques eux-mêmes. Donc il s'agit effectivement de l'invention d'un hybride, la théorie, et de l'Amérique comme théâtre, enfin de l'université américaine, comme théâtre de relations à la fois très conflictuelles et en même temps très dramatisées, très spectacularisées, entre la littérature et ses dehors, disciplinaires, ses dehors épistémiques et ses dehors politiques. Alors attention bien sûr à ces deux mots, littérature et dehors, puisque... la littérature comme champ d'études universitaires aux États-Unis n'a pas du tout la même tradition qu'en France. C'est un point essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas invention dans les années 70 d'un objet théorique. Il y a continuation d'un vieux projet théorique qui date, selon les histoires de l'université américaine, soit d'un siècle, soit du New Criticism des années 40. D'un siècle, si on en revient à l'humanisme, des grands hommes de lettres qui étaient Matthew Arnold, ces anglo-américains du tournant du siècle qui conféraient à la littérature comme ça un rôle moral et politique sans égal. Et puis un demi-siècle, si on se souvient du New Criticism, donc de ce mouvement théorique qui commence dans les années 30 et 40, et qui a, pour l'usage de concepts philosophiques exigeants et pour la tentative de dépsychologiser radicalement l'analyse des textes littéraires, on peut presque dire 20 ou 30 ans d'avance sur la nouvelle critique française. Donc il y a vraiment il y a convergence plus qu'invention ex nihilo, ça c'est important. Quant au dehors, on verra que il y a une sorte de piège, un catch 22 comme diraient les Américains, c'est-à-dire que c'est la littérature qui définit ce qui constitue ces dehors, et ce geste de définition lui-même est éminemment contestable. Alors tout commence, cette révolution épistémique à l'intérieur du champ littéraire américain, tout commence par une crise du champ littéraire, encore une fois du champ littéraire universitaire, puisque tout ce dont je parle concerne la tradition universitaire et pas du tout le storytelling et la grande fécondité du roman américain, c'est une autre affaire. Donc tout commence par une crise du champ. Alors on pourra m'objecter que le champ littéraire a pour propre d'être en crise, étymologiquement la critique est l'activité effectivement de mise au jour de la crise, mais beaucoup plus concrètement dans les années 70, le champ littéraire est en crise parce qu'il y a crise des inscriptions des étudiants, face à la crise économique, préfèrent les études de droit ou les business schools que ces études littéraires un peu éthérées. Il y a crise épistémique parce que, en fait, le champ littéraire américain ne s'est pas bien remis du New Criticism. Il y a finalement une tradition moderniste, un peu avant-gardiste, mais néanmoins assez réactionnaire, face à laquelle on a une série d'écoles et de petites chapelles sans véritable mouvement d'ensemble. Elles sont très balkanisées, ces études littéraires américaines. On a une crise très concrète qui est une crise budgétaire. Les universités sont en crise puisque les subventions publiques baissent, donc il va de soi que leurs priorités budgétaires vont pas à la littérature. Bref, c'est de cette crise que va naître, le dénouement de cette crise va se trouver du côté d'une explosion à la fois du canon littéraire, donc du corpus, du matériau de ce champ d'études, et de toutes les frontières génériques et de toutes les définitions convenues qui organisaient ce champ. Donc effectivement, le principe de cette explosion, c'est le pantextualisme, c'est ce pan-narrativisme, c'est l'idée que tout serait récit, que tout serait texte. Mais attention, pantextualisme qui est réciproque, c'est-à-dire qu'on a tendance à un peu vite à faire de ces universitaires américains des joyeux textualistes qui textualiseraient le monde, textualiseraient le politique. En fait, la proposition est absolument à double sens, c'est-à-dire que le pantextualisme est aussi une façon de faire rentrer le monde, les mondes, et en particulier les contre-mondes, y compris les contre-mondes sociaux et politiques radicaux des années 70, dans les textes. Donc il s'agit à la fois de textualiser le politique et de faire rentrer dans le corpus littéraire, y compris classique, des préoccupations tout à fait contemporaines. Donc pour ça, j'ai choisi en fait une approche qui relève de la sociologie universitaire, ou de l'écologie disciplinaire, c'est-à-dire comprendre comment un champ disciplinaire avec sa logique symbolique, ses stratégies symboliques, tente à la fois de sortir de cette crise et de se positionner de façon nouvelle face aux champs disciplinaires concurrents. À l'intérieur du champ des humanités, les plus proches sont bien sûr les sciences sociales, l'histoire et bien sûr la philosophie, la philosophie analytique dans la tradition américaine va lever tous ses boucliers contre cette nouvelle folie douce du champ littéraire. Donc on sera vraiment dans une situation de conflit des facultés, alors là au sens de Bourdieu comme de Kant, terminal, un conflit qu'on n'a sans doute pas connu, une échelle qu'on n'a pas connue en France même dans les années 60 ou 70. Donc cette analyse sociologique passait aussi, au-delà de l'étude des textes théoriques, la production d'un nouveau discours théorique, passait par une analyse tout à fait institutionnelle. Alors, par exemple, j'ai consacré pas mal de place au rôle de la MLA, la Modern Language Association, cette espèce de syndicat des littéraires de l'université américaine, qui, au tournant des années 80, change totalement d'aspect et de politique, alors que c'était un bastion des conservateurs, des défenseurs du classicisme et du corpus classique. Ça devient le chaudron de toutes les innovations les plus saugrenues à partir du début des années 80. C'est assez intéressant, c'est qu'avant la chute du communisme, en plein air Reagan, qui avait des airs de second maccartisme, la MLA se faisait, était fière d'inviter chaque année tous les instituteurs d'une région ouralienne un peu lointaine, quelques professeurs castristes, des marxistes-léninistes en provenance de toute l'Europe de l'Est. Voilà, donc c'était la MLA et c'est, a vraiment joué le rôle d'une machine de guerre institutionnelle contre les bastions du champ littéraire. Alors maintenant, le rapport avec ce qui nous intéresse, enfin le corpus théorique et philosophique français qui va se trouver importé. Ce que j'ai tenté d'analyser, c'est non pas la façon dont ce corpus a été seulement importé, puisque ça, à la limite, ça relève de trajets biographiques singuliers, de professeurs qui individuellement décident que tel texte de Lyotard ou de Deleuze mériterait d'être connu, donc, mais aussi d'une stratégie beaucoup plus complète de littérarisation des propositions philosophiques de ces auteurs, qui, sauf Derrida, finalement ne se sont intéressés que très temporairement ou marginalement ou de façon instrumentale à la littérature. Bien sûr, le roman américain, enfin, il n'y a pas d'œuvre de Deleuze sans cette relecture du roman américain. Lyotard fait des allusions fréquentes à la littérature de son temps sur le thème du récit. Barthes est d'abord un critique littéraire, mais il y a, disons, un projet philosophique qui n'est pas, au plan disciplinaire, disons, ancré dans le champ littéraire. Donc il faut les littérariser, pour une raison simple, c'est que finalement il parle de philosophie, il propose une critique de la métaphysique ou de la tradition philosophique occidentale, laquelle n'est pas connue des étudiants américains, puisqu'ils n'ont pas de philosophie en terminale, et leur champ philosophique à eux est un champ plus technique, plus scientifique. C'est d'ailleurs ce qui effectivement rend parfois un peu cocasse les déclarations de guerre de jeunes chercheurs américains qui décident effectivement de s'en prendre à la raison, à la métaphysique et au logos, d'oxyre Hegel et de bouter Descartes hors du champ théorique, auteurs qu'ils n'ont pas lus, enfin qui ne sont absolument pas familiers et dont ils commencent par, enfin qu'ils commencent par déconstruire, ce qui est un peu contestable, on le verra. Donc il s'agit de littérariser les propositions philosophiques des auteurs qui formeront le corpus de la théorie française. Alors j'ai pris quelques exemples. Dans le cas de Foucault, il y a le succès de certains textes. La conférence de 69, qu'est-ce qu'un auteur, avec son fameux mot d'ordre qui résume un peu une époque qui était « qu'importe qui parle », donc on a un peu vite résumé par le principe de la mort de l'auteur, devient très vite le texte le plus lu de Foucault. Étrange, enfin, conférence vraiment très courte, passagère et pas la plus intéressante de Foucault de loin. Et il s'agit à partir des propositions foucauldiennes de relire non pas des institutions historiques, des configurations épistémiques comme lui le faisait, mais des genres littéraires. On relit le roman comme une institution, en tant qu'institution. Et je cite notamment le très bon essai de D.A. Miller, The Novel and the Police, je ne crois pas qu'il ait été traduit, qui fait pratiquement une analyse du roman comme Foucault le fait de la prison. En laissant de côté la question de savoir si on peut légitimement analyser le roman comme une institution sociale ou politique. Bon, du côté de Deleuze, je donne comme exemple, bon, il est un peu caricatural, mais le semi-contresens effectué par certains littéraires américains qui vont transformer le concept de littérature mineure en littérature minoritaire, moyennant un glissement effectivement du principe du bégaiement dans sa propre langue, du principe de la minorité toujours intérieure, au principe quasiment géopolitique des minorités littéraires dans l'Union, donc réexhumer la littérature amérindienne, noire américaine, très noble projet, mais qui effectivement, vu comme ça, a des relents un peu oedipiens, enfin c'est pas du tout le projet deleuzien, hein, enfin le Kafka en tout cas de Deleuze et Guattari, ne va pas dans ce sens-là. Et puis ça va même, c'est ce que je montre, puisque ces littéraires ont à produire un discours théorique sur non seulement sur ces auteurs-là, mais finalement sur les grands philosophes allemands qu'il y a derrière eux, ça va même jusqu'à des analyses purement littéraires de Nietzsche ou d'Heidegger, qui sont un peu curieuses, puisque séparer une analyse stylistique d'Heidegger d'une éventuelle analyse conceptuelle de contenu, ça me semble un peu délicat. Voilà. Alors ensuite, les outils que j'ai essayé de déployer pour comprendre la mise au point de ce nouveau paradigme disciplinaire qu'est la theory ou transdisciplinaire, c'est à la fois une analyse, je dirais, périphérique, une analyse de contenu. L'analyse périphérique, c'est l'agencement des textes. Comment est-ce que on va, à partir de textes complètement étrangers, d'un corpus étranger, qui est le corpus théorique français, proposer un agencement éditorial inédit qui transforme radicalement la compréhension de ces auteurs, et puis une analyse de contenu, une analyse syntaxique ou lexicale des mots, du code, du jargon, de tout ce qui va faire une langue commune, une langue théorique commune. Alors du côté du premier point, ce qui m'a intéressé, c'est que la sélection de certains textes au détriment d'autres transforme en fait l'espace intertextuel, c'est-à-dire que on arrive à resserrer l'espace intertextuel. L'idée de la plupart de ces universitaires, c'est de ranger tous ces auteurs français dans la même catégorie. D'abord, c'est plus pratique, c'est une question de communication universitaire, c'est plus pédagogique, c'est plus facile à opposer à toute une tradition métaphysique. Pour ça, il s'agit d'effacer beaucoup de divergences politiques et théoriques fortes et de privilégier les textes des uns sur les autres, les textes communs, les textes qui, effectivement, créent une figure comme ça, intertextuelle, d'ensemble. Alors, je donne le cas qui est sans doute le plus facile, le cas de Foucault et de Deleuze. Les textes communs ou de l'un sur l'autre, qui sont connus, il y en a des très importants, sont ceux qui circulent finalement le plus facilement et sont presque les premiers traduits aux États-Unis. Y compris les textes de Foucault sur Deleuze dans Critique, et d'ailleurs réciproquement, à l'époque la revue Critique servait comme ça de support d'un dialogue entre eux, au détriment des éventuelles divergences effectivement philosophiques, notamment de la fin, et puis au détriment surtout, je pense, des traités théoriques très distincts de l'un et de l'autre, Différence et Répétition est beaucoup moins lu de Deleuze que son Foucault, par exemple, son essai sur Foucault. Donc ça, c'est ce qui relève, disons, du péritexte, parce qu'il y a aussi là-dedans tout l'ajout d'une préface, la question de la traduction essentielle. Qu'est-ce que c'est que cette langue nouvelle qu'il s'agit de créer à partir d'un intraduisible, puisque traduire certains mots et se s'avère tout simplement impossible, et que traduire Derrida en anglais reste un défi théorique qui me fascine, dont je ne vois pas comment il est même relevable. En tout cas, il s'agit à partir de la traduction de créer un code commun, de créer un modus loquendi, une façon de parler commune. Le paradoxe étant qu'elle va naturaliser des concepts, labelliser des concepts plus fortement que ses œuvres ne l'avaient permis en France. Le corps sans organes de Deleuze et Guattari devient effectivement comme ça un indice de complicité intellectuelle, un label, beaucoup plus que le concept plus rigoureux qu'il était en France. Et puis donc il y a tout ce qui d'ailleurs la traduction en relève, tout ce qui relève des procédés, cette fois-ci lexicaux, syntaxiques, de tout ce qui permet de créer une société de discours. Alors là, c'est des analyses effectivement plus classiquement littéraires que j'ai tenté de faire en lisant les textes critiques américains sur ces auteurs-là, ou même les préfaces des traducteurs. C'est très révélateur, les préfaces des traducteurs, puisque c'est la traduction est le premier geste de réappropriation, finalement, le plus manifeste. Donc là, j'ai effectivement analysé le travail de la citation, la façon dont la citation scinde un auteur finalement de son contexte théorique et de sa propre œuvre, de la logique linéaire de son œuvre, le dépersonnalise ou plutôt l'impersonnalise, selon les vieilles propositions d'Antoine Compagnon dans son premier livre, La Seconde Main, qui je trouve, pour le coup, fonctionne vraiment bien. Si on l'applique effectivement à cette construction d'un nouveau discours théorique, ça marche très bien, je trouve, ce qu'il dit de l'impersonnalité, du fait que la citation n'est pas confiscation, mais c'est proposition d'un espace commun. Donc on reterritorialise un auteur en le citant dans un contexte qui est nouveau. Alors, en même temps, ça pose la question beaucoup plus politique du fragment, c'est-à-dire qu'en privilégiant des fragments de textes français, en privilégiant des citations de Deleuze et de Foucault, au détriment de la logique argumentaire, enfin de l'ensemble de l'œuvre, ou même des fragments, des résumés tout simplement, les fameux readers, puisque les Américains fonctionnent par anthologie, par prémâchage, pour le dire un peu méchamment. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi le risque non seulement de scinder le contenu théorique d'une œuvre de son contexte, mais de faire le jeu du pouvoir, d'un certain pouvoir académique qui fragmente pour effectivement éviter que certains liens soient tissés. La fragmentation, le jeu de la citation, permet certes une connivence, mais dépolitise ou retire une certaine force politique à des œuvres qui n'ont de sens que dans leur ensemble, dans leur logique d'ensemble. Donc voilà, alors j'ai évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de faire référence alors au mot que propose Foucault dans la fameuse conférence « Qu'est-ce qu'un auteur ?» dont je disais il y a 10 minutes qu'elle n'était pas importante, mais qui est le concept de transdiscursivité, ce curieux espace flottant, un peu transhistorique, où flottent effectivement des noms propres dépersonnalisés, des noms de concepts, eux, devenus noms propres, un mélange comme ça de mots qui ne renvoient plus à des individus épistémiques, à des auteurs, mais qui sont des principes de classement. Alors lui, il le fait, Foucault, dans Qu'est-ce qu'un auteur, pour Marx et Freud, effectivement, montrant que Marx et Freud étant les références majeures de son époque, enfin de 69, quand il fait cette conférence, eh bien, ça fonctionne beaucoup plus comme principe de classement et de polarisation du discours que comme véritable corpus et, concret auquel on se référerait. Et finalement, on peut faire la même chose sur le nom même de Foucault ou celui de Derrida dans leur réception américaine. Alors, maintenant, cet objet d'ensemble, enfin, l'ensemble de ces stratégies, l'ensemble de ces opérations disciplinaires qui produisent un discours théorique nouveau, a suscité évidemment tout un ensemble de résistances dans les champs disciplinaires voisins. Alors là, il y a tout un jeu dialectique, les résistances renforçant le nouveau paradigme, puisqu'il y a un effet de frottement qui effectivement rend plus visibles les débats entre disciplines. Alors les sciences sociales, bien sûr, résistent, même si ce n'est pas les plus proches, elles sont plutôt éloignées, enfin elles sont plutôt positivistes dans la tradition américaine, et même leur renouvellement récent à l'époque dont on parle ne permet pas le dialogue avec la théorie française. Donc les sciences sociales sont très méfiantes, trouvent que tout ça n'est pas très empirique, et textualisent effectivement une analyse que les sciences sociales on propose comme une analyse empirique. Donc il y a méfiance. Il y a méfiance bien sûr de la discipline historique. Alors c'est tout un contexte d'époque, mais l'histoire aux États-Unis comme discipline a connu sa crise épistémologique à ce moment-là, donc en fait un peu 20 ans après la France, 20 ans après l'école des annales, enfin c'est le débat sur l'école des annales, et a été très tenté pour beaucoup d'historiens par la généalogie foucauldienne, par des recours à Deleuze et à Derrida pour critiquer comme ça les certitudes de l'histoire. Idylle qui n'aura pas duré pour des raisons évidentes, l'histoire étant effectivement un travail documentaire, enfin un rapport au document et à la source, à la trace écrite ou pas écrite, elle ne peut pas se permettre effectivement un métadiscours sans fin, une régression théorique sans fin sur le fait que le document échappe à lui-même, que le signifiant échappe à lui-même. La déconstruction, disons, n'est pas tenable comme proposition à l'intérieur du champ historique. Bon. Et puis il y a le cas de la philosophie, qui est sans doute le cas le plus connu, puisque c'est là que l'opposition la plus forte, enfin, c'est fait jour, avec, alors attention, des nuances, puisque bon, il y a d'un côté John Searle, qui effectivement lance la bataille contre la théorie française au début des années 80, mais on a à l'autre bout du spectre un Richard Rorty qui lui entamera un dialogue très fécond entre la tradition pragmatiste américaine et la théorie française. Fécond, même si ces conclusions politiques qui sont très éloignées, je trouve, de Foucault et Deleuze, puisque c'est un libéral au sens américain du terme qui se méfie de toute forme de pensée un peu radicale ou radicalisée. Mais en fait, le cas de la philosophie analytique est intéressant parce qu'il m'a semblé, tout en étant bien extérieur à ça, enfin très loin d'être familier de la tradition analytique, il m'a semblé que la divergence tenait moins à une divergence de contenu, tant les projets théoriques sont différents entre le projet, disons, scientiste ou scientifique d'interrogation du langage ordinaire et des concepts ordinaires de la philosophie analytique et le projet transhistorique, transthéorique, effectivement, par exemple, de Foucault ou de Deleuze. C'est moins une différence de contenu que véritablement une différence d'éthos. vraiment de disposition. C'est-à-dire que d'un côté, il faut, on est d'autant plus fiable qu'on est austère. C'est la fameuse citation de Austin. C'est toute l'austérité du projet analytique qui se conçoit bien s'énonce clairement. Descartes a effectivement, comme Tocqueville le montrait bien, des successeurs aux États-Unis. De l'autre côté, effectivement, un jeu sur le style, un jeu sur le décalage, sur l'écart, que les philosophes analytiques considéreront comme, justement, littéraire. Ils diront, la théorie française, c'est bien gentil, mais tout ça n'est que littérature. Confondant tout à coup les lectures américaines de la théorie française et les textes eux-mêmes. C'est pas parce que ce corpus théorique a été littérarisé que c'est un corpus littéraire. Donc il y a cette bataille, comme ça, entre champs disciplinaires que j'essaie de passer en revue un peu vite. Et finalement, au terme de cette bataille, la littérature, enfin comme indéfinie, comme ce qu'on ne va pas définir, est devenu le nom de code d'une démarche de soupçon systématique, mais finalement un soupçon plus directement politique que le mot de soupçon tel qu'on l'employait dans les années 60-70 pour désigner la nouvelle critique ou le nouveau roman, plus directement politique puisqu'il s'agit de, à partir du nouveau champ tel qu'on l'a constitué, de la littérature comme soupçon textualiste ou narrativiste, d'aller visiter tout un ensemble de discours convenus, de discours existants empiriquement, et de les retravailler de l'intérieur. Alors le discours du droit, par exemple, dont on va analyser les présupposés phonocentristes, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire le fait que finalement le droit est en grande partie basé sur la foi accordée à la parole de celui qui témoigne, donc au témoignage, l'idée que cette parole, parfois soutirée, serait effectivement l'expression pleine et entière d'un sujet, présupposé phonocentriste éminemment contestable, ça c'est intéressant. On va revisiter également le cinéma, la théorie du cinéma, les études filmiques, c'est la grande époque de la lecture des films, il y a tout comme ça une littérarisation des études filmiques, on va prendre, tous les outils littéraires sont embarqués vers l'analyse filmique. Je donne même l'exemple parce qu'il est plus cocasse et un peu curieux de la théologie, les études de théologie qui font un grand usage effectivement du corpus théorique parce qu'elles sentent qu'il y a là une alliance possible contre la tradition rationaliste, progressiste des Lumières qui est le grand ennemi de la théologie si on pense que c'est la raison qui est à l'origine de la crise des vocations ou que la science reste le plus vieil ennemi de la théologie. Donc il y a là une alliance qui est effectivement hors d'un champ universitaire américain très ancré, n'a pas grand sens, fait peu sens théoriquement. Et puis c'est plus largement la constitution d'un ensemble de sous-champs d'études consacrés aux minorités. Donc constitution graduelle, ça commence dans les années 70 par les Women's Studies, ça se continue avec les Gay Studies qui effectivement 10 ou 15 ans plus tard donneront naissance à une sous-branche concurrente qui est le Queer Studies. Ça se continue avec bien sûr les études ethniques, la vieille tradition des Black Studies qui moyennant la vague politiquement correcte, sont rebaptisés les African American Studies. C'est le cas également pour les minorités asiatiques, pour les minorités hispaniques, les Chicano Studies. Ce qui est intéressant là, c'est que finalement, les propositions de ces champs d'études, les propositions théoriques et politiques, n'ont que peut avoir avec la littérature, puisqu'il s'agit effectivement d'affirmer l'histoire, la contre-histoire d'une identité, d'une minorité contre l'histoire dominante, enfin, l'histoire par le bas, de proposer une stratégie militante, nouvelle, c'est les années 80, le retour à l'Amérique, America is back, les WASP sont au pouvoir, donc il y a effectivement là une stratégie militante d'affirmation identitaire. Ce qui est curieux finalement, c'est que cette explosion de champs identitaires nouveaux se fasse à l'intérieur du paradigme littéraire, se fasse par le paradigme littéraire. C'est ça qui m'a que j'ai trouvé curieux et qui s'explique en fait par le biais des cultural studies, par cette espèce d'objet transdisciplinaire étrange d'importation anglaise qui s'appelle les cultural studies et qui autorise à lire tous les modes d'expression sociaux, politiques, historiques, avec les outils de la théorie littéraire. Quitte à analyser un concert de Madonna avec les outils les plus fins, effectivement, de la narratologie de Genette. Donc vous voyez bien qu'il y a là, que ce transfert-là est éminemment problématique. Bon, et c'est ce paradigme nouveau des cultural studies, c'est-à-dire l'idée d'aller relire la culture populaire et l'ensemble des stratégies d'affirmation identitaire avec les outils de la littérature, qui explique que les minorités, finalement, constituent ces champs nouveaux à l'intérieur du paradigme littéraire. Alors même que les Chicano Studies ou les Women Studies ne s'intéressent pas seulement à la littérature hispanique ou à la littérature féminine, mais à toutes les autres formes d'expression. Et c'est en fait là qu'on voit, c'est là la plus grande réussite peut-être de ce nouveau paradigme littéraire, puisque si toutes les formes d'affirmation identitaire relèvent du texte ou du littéraire, c'est que le paradigme littéraire finalement s'est étendu aux confins de l'espace social, et le politique lui-même est relu comme une simple forme d'expression. C'est l'époque où le fait de s'exprimer, d'affirmer une position identitaire, tient lieu de politique. C'est l'époque où, aux grandes dames de la gauche américaine traditionnelle, chacun affirme son identité dans une sorte de geste comme ça, un transitif et un peu en creux d'affirmation identitaire, tellement en creux qu'effectivement les outils littéraires permettent de l'analyser, sans tenter d'alliance politique entre eux, sans tenter d'aller contre l'éclatement comme ça des programmes identitaires. Donc ce paradigme de l'expression de soi, de la simple expression identitaire, finalement est un sous-produit voilà de ce nouveau principe théorique littéraire américain. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Peut-être finir par justement cet objet lui-même de theory, enfin ce mot qui est le sésame de l'ensemble du champ des humanités aux États-Unis depuis maintenant 100 ans, et qui est un mot encore plus trompeur que le même mot tel qu'on le prononçait dans les années 70 en France, parce que finalement il ne correspond à aucune des définitions successives de la théorie, ni bien sûr à la théorie dans le sens du rationalisme et de la philosophie continentale, la théorie comme effectivement saisie par la raison des objets empiriques, enfin la théorie en fait de la science, ni même la théorie beaucoup plus restreinte telle que l'emploie une certaine théorie linguistique dans les années 50 autour de Chomsky justement, que Barthes reprendra d'ailleurs, ça n'est pas non plus ça, ni la théorie au sens marxiste althusserien de l'époque en France, c'est-à-dire la science de la démystification idéologique, ça n'est rien de tout ça. C'est un objet, c'est une boîte noire, il m'a semblé que c'est un objet vide, c'est un objet qui a produit, suscité une littérature critique, théorique, méta-réflexive, comme ça, infinie, pléthorique, délirante, avec effectivement des débats tels que une grande revue américaine proposant un numéro spécial Against Theory, à quoi répondent plusieurs revues l'année suivante In Favor of Theory, enfin, comme s'il s'agissait d'un candidat à une élection, effectivement. Cet objet suscitant comme ça une passion. Et alors c'est là où l'ensemble, si vous voulez, de ce que j'ai étudié pour comprendre la constitution de ce paradigme théorique m'a amené à analyser aussi la théorie dans ses dimensions existentielles, comme mode de subjectivation, comme, alors là j'ai utilisé Ricoeur, ce qu'il appelle le champ de la référence, la façon dont, alors lui il dit le récit, mais finalement pourquoi pas la théorie, font référence à l'intérieur du texte à un ensemble de situations existentielles, à un contexte existentiel, et c'est finalement ce système de résonance qui fait que, selon ces termes, le monde de chaque lecteur est augmenté des récits qu'il vient de lire. Alors là, le monde de chaque lecteur américain, la plupart étant des étudiants, alors cet âge de l'étudiant et cet isolement du campus jouent un rôle ici, ce monde de l'étudiant ou du jeune chercheur et comme ça augmenter théoriquement de propositions théoriques qui viennent saper les fondements de l'ordre, du pouvoir ou au contraire interroger son identité multiple, la série de strates identitaires qui constitue. Donc il y a cette espèce de puissance métamorphique du concept de theory qui a comme ça garanti sa capacité de conquête territoriale sur les autres champs disciplinaires. Moins la théorie et moins la littérature elle-même seront définies ou seront définissables, plus leur impact sur les autres disciplines sera puissant, si vous voulez, en quelque sorte. C'est ouvert au débat, enfin je pense qu'on va en parler. C'est finalement très différent du terme de théorie et de la vogue de la théorie littéraire telle que la France l'a connue à l'époque où tous ces gens-là commençaient à écrire, puisque il n'y a pas de conquête disciplinaire, il n'y a pas effectivement ces empiétements du champ littéraire, il y a emprunt au champ philosophique, bien sûr, puisqu'à l'époque on lit les philosophes en littérature, et tant mieux, on devrait continuer à le faire, mais il n'y a pas d'empiétement, il n'y a pas de stratégie de conquête disciplinaire, il n'y a même aucun contact avec, en revanche, les sciences sociales ou l'histoire, et il y a par contre... Autoréflexion de la littérature comme aporie de la modernité et en fait régression sans fin de la littérature comme indéfinissable au lieu de cette espèce de conquête territoriale que le même mot de théorie a permis aux États-Unis. On peut résumer l'ensemble de ces opérations peut-être par en proposant quatre rapports nouveaux de la littérature ou du paradigme littéraire, donc dans le cas américain, assez dehors. Ça rejoint ce que je viens de dire. Le premier serait donc l'empiètement disciplinaire, c'est l'écologie des savoirs. Donc les dehors de la littérature sont toujours potentiellement absorbés par ce paradigme. Il n'y a pas vraiment de limite à sa conquête territoriale. Si tout est récit, si tout est texte, y compris les sciences exactes, y compris l'histoire, y compris la philosophie. C'est qu'effectivement qu'on a que même Judith Butler dans son premier livre baptisait Bildungsroman, elle disait l'ensemble de la philosophie continentale est un grand roman d'initiation. Voilà, ce genre de proposition un peu provocatrice témoigne effectivement d'un empiètement de la littérature sur ses autres. Première tactique, l'empiètement disciplinaire. La deuxième, plus large, c'est ce que j'appellerais le désenclavement des textes, c'est-à-dire un continuisme nouveau entre le corpus littéraire proprement dit et non seulement le corpus théorique et critique, mais aussi, et c'est ça qui est beaucoup plus audacieux, tout un ensemble d'actions, de pratiques militantes, politiques, souvent hors campus. Donc il y a une continuité épistémique tracée entre l'audace théorique anti-phallogocentrique, pour employer un grand mot d'époque, de roman de Virginia Woolf, et les stratégies du militantisme américain des années 80. Comme si c'est pareil que Miller comparant le roman et la prison. Il y a là, on franchit ce fossé ancestral des textes au monde, des textes au réel, que effectivement nous autres Français franchissons peut-être avec plus de méfiance. Mais il y a désenclavement. Donc c'est en ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut comprendre le terme de textualisation. C'est-à-dire que ça n'est pas l'idée que l'ensemble des combats, des rapports de force sociaux et politiques seraient textualisés. Ça n'est pas que ça, même si ça a été beaucoup ça, puisque c'est quand même un mouvement très rhétorique. C'est aussi l'idée qu'il y a une continuité nouvelle entre les formes d'expression littéraire et les formes d'expression politique non textuelle. Alors, dans le même ordre d'idée, la troisième tactique, le troisième rapport de la littérature à ses dehors, ça serait... ce que j'appellerais la métamorphose du politique lui-même en répertoire d'énonciation, en forme d'expression, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'affirmation politique aux États-Unis à cette époque-là, et pour beaucoup de raisons qui n'ont pas qu'à voir avec ça, devient simple recueil, simple picorage dans un répertoire, effectivement, de formes d'expression possibles. D'où d'ailleurs la querelle du politiquement correct. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. C'est-à-dire, pourquoi faudrait-il absolument créer un code strict, une contrainte nouvelle nous autorisant à parler des minorités selon un vocabulaire préétabli, non pas pas seulement par un moralisme nouveau du champ politique américain, mais aussi parce que la seule forme d'affirmation politique, c'est l'affirmation de soi, c'est l'affirmation intransitive de son identité. Le noir ou l'homosexuel, dans cette logique-là, s'affirme en tant que tel au lieu d'affirmer de proposer une plateforme politique. Donc cette affirmation, effectivement, exige le respect de leur identité, le nominalisme comme ça d'une désignation acceptable. Donc c'est le politiquement correct rentre dans cette logique. Et puis le quatrième rapport de la littérature assez dehors, ça rejoint en boucle ce que je disais ou ne disais pas sur quel rapport avec la réélection de Bush, c'est l'effet de polarisation idéologique que va avoir cette aventure, puisque, alors même qu'il s'agissait de débats internes à l'université, à la fin des années 80, moyennant la querelle du politiquement correct, moyennant un certain nombre d'essais ad hominem contre les minorités et contre la théorie française par les nouveaux penseurs néoconservateurs, essais qui, eux, sont des best-sellers, hein, beaucoup plus que les traductions de Foucault ou de Deleuze, moyennant effectivement une nouvelle tension, un nouvel état de tension tout à fait hors université entre la majorité républicaine et les minorités, eh bien, ce débat devient un débat national. Pendant quelques années, au tournant des années 90, il devient véritablement un débat national. J'ai même pu trouver sans doute le seul discours de Bush senior en 89 qui s'adresse directement à ces questions-là, qui parle de théorie, qui mentionne le mot de théorie, c'est curieux pour quelqu'un qui est aussi peu la tête théorique, mais ce qui signifie bien qu'il y a là une extension d'une querelle théorique et disciplinaire intra-universitaire à l'espace public américain dans son ensemble, extension voulue beaucoup plus, à mon avis, par ses ennemis que par ses défenseurs. Donc c'est les néoconservateurs qui ont réussi cette opération-là, qui est de dire nos têtes blondes sont en danger de relativisme terminal et d'appel à la mort de l'Occident et de l'homme blanc. Et il faut effectivement refonder des valeurs communes sur un socle théorique et politique autre que celui qu'on nous propose. Donc voilà, c'est un peu les quatre rapports de la littérature assez dehors que je tirerais de cette aventure américaine. Voilà, merci, mais bon, j'aimerais surtout qu'on en débatte ensemble.
Il y a eu encore très récemment une polémique sur Derrida, je crois, qui a opposé...
Une polémique, en tout cas, il a été, en guise de rubrique de nécro dans le New York Times, il a été écharpé très méchamment, d'abord sur le thème du penseur abscon, c'était le titre de sa nécrologie le lendemain, Death of an Abstruse Thinker, et puis ensuite, moyennant effectivement un courrier des lecteurs, puisqu'il y a eu évidemment réaction immédiate des Derridiens, disant « Ah oui, le New York Times n'a pas seulement... soutenu la guerre en Irak dans un premier temps, mais maintenant il s'attaque à Derrida, enfin, tout ça se politise très vite. Ensuite, on est revenu vers les querelles, alors elles, hystériques de l'époque de l'affaire Paul de Man, quand après la mort de Paul de Man, la droite américaine a ressorti effectivement les textes qu'il avait écrits pour la collaboration pour Le Soir en Belgique. Et là, effectivement, le débat qui a eu lieu dans le courrier du New York Times, assez long courrier, c'était vraiment sur le thème la déconstruction est-elle un allié ou un ennemi du négationnisme. Effectivement, débat qui fait peu de sens dans le cadre français, je crois, parce qu'on peut contester les propositions théoriques de Derrida, trouver qu'il y a beaucoup de vent, comme certains le trouvent, mais on ne va pas en faire un révisionniste, je crois pas. Donc voilà, en tout cas, effectivement, ça a relancé tout de suite une polémique très forte.
On s'est aperçu de la réaction d'intellectuels qui ont fait toute une série de pétitions, en fait, du caractère national du débat, comme vous le mentionniez.
Non, c'était acrimonieux.
Je vais ouvrir le débat, si vous me permettez, puisque je viens justement, c'est la question de l'intérieur et de l'extérieur, parce que c'est un peu comme dans les lettres persanes, vous êtes à la fois dedans et dehors, et le rapport aux frontières s'inverse. Je voudrais partir de là, ce qui m'a frappé dans ce que vous décrivez, je ne parle pas de votre propre attitude ou rapport à ça, mais des phénomènes que vous avez décrits. C'est l'affirmation que le rapport à la frontière est avant tout un rapport d'expansion territoriale, de conquête. Je dirais, j'allais presque dire, mais maintenant je le dis, puisque je l'ai pensé, disons-le, presque de prédation. Alors que, donc, ce qui veut dire que le rapport à la frontière, c'est un rapport de pouvoir. Tout ça, c'est centré, tout ça fonctionne autour des rapports de pouvoir. Et en réfléchissant à partir de la lecture de ces textes que vous aviez envoyés, je me disais, bon, alors, ce qui nous différencie, ou je dirais, si j'avais à définir ce qui me différencie, ou moi-même, hein, pas forcément nous tous, et tous ne se reconnaîtront pas, peut-être pas là-dedans, c'est que le rapport à l'extérieur est plutôt un rapport de savoir, hein, d'ajustement et de construction des savoirs, notre rapport à l'extérieur. Donc, ce n'est pas un rapport, ça peut être dans certains cas un rapport, je dirais, nous avons besoin de l'extérieur pour redéfinir, pour reconstruire, pour redéfinir notre propre savoir et notre propre identité dans cette confrontation. Et l'extérieur, c'est aussi bien d'ailleurs le dehors, c'est aussi l'Amérique. C'est-à-dire, c'est pas seulement le dehors de la littérature, c'est pas seulement la philosophie, mais de ce point de vue-là, il est clair que le dehors, c'est aussi le système américain, hein, le système universitaire américain, par rapport et le système intellectuel presque. Qu'on a envie d'appeler la culture américaine, parce que le mot de culture ici s'impose, hein, la culture universitaire américaine, par rapport à ça. Donc, c'est une première remarque. Alors, je crois que la deuxième, c'est que, pour y voir clair, ce qui est bon, c'est d'être un peu transfuge, c'est-à-dire d'avoir des complicités, j'en doute, d'avoir des complicités dans tous les bords. Ce qui est très frappant dans vos deux textes, c'est qu'ils ont des positions discursives et des styles très différents. Il y en a un qui saisit son objet de l'extérieur avec comme objet de savoir. D'ailleurs, French Theory, c'est la réflexion, la mise en place d'un objet de savoir. C'est un traité. Hein, bon, pas entièrement, mais grosso modo, c'est un traité dans un style très, très, très efficace, mais dans laquelle la rhétorique est une rhétorique de la démonstration, je dirais. Pas une rhétorique de littérarisation. Et le texte sur Derrida est un texte dont la position intellectuelle est tout à fait différente, la position même symbolique ou auctoriale est tout à fait différente. Donc, je dirais, c'est un texte écrit du dedans, hein, et par opposition, et peut-être aussi géographiquement, dedans, enfin, à un moment où vous êtes vous-même en France. Hein. Et il me semble que ce à quoi ça nous invite, c'est précisément à ça, c'est-à-dire à nous déplacer. Voilà ce que je voulais souligner. Et la troisième question, c'est de ces réflexions là, quel type de, j'allais dire, d'enseignement, je l'ai pensé, je le dis, quel type d'enseignement pouvons-nous tirer pour nous-mêmes, à la fois vers quelle réflexion et vers quel type d'action est-ce que ça nous oriente, hein? Parce que ce que vous décrivez nous concerne, et même si c'est quelque chose qui est très différent de ce qui se passe ici, c'est que ça nous concerne. Et il est évident que si ça nous concerne, la réponse ne consiste pas à dire simplement qu'il faut prendre connaissance de ce qui se passe à côté, même si c'est un préalable indispensable. Voilà.
D'accord. Beaucoup de questions, chacune autant... Vaste. Quelques commentaires spontanés en fait sur chacun des thèmes que vous proposez. Effectivement, ce rapport à la frontière, il est au centre du type de travail un peu territorial que je propose. Mais finalement, c'est aussi un lieu commun de la sociologie universelle, de la sociologie des savoirs d'ailleurs depuis toujours, que l'idée que thématiser la frontière, faire de la frontière l'objet même d'un déploiement théorique, assure de devenir carrefour de dialogue, si vous voulez. Et finalement, il y a là presque une position stratégique, c'est-à-dire que c'est de la part des universitaires américains qui tentent d'empiéter sur la philosophie, l'histoire. Il y a là un rapport complètement stratégique à la notion de frontière. C'est-à-dire que en faisant de la question de la frontière ou de l'érosion des frontières entre champs disciplinaires la question centrale de leur œuvre, ils se sont tous assurés une carrière universitaire brillante en tant effectivement que contempteurs des catégories disciplinaires traditionnelles. Donc là, il y a vraiment un... la frontière, effectivement, est un lieu de pouvoir, et puis c'est aussi un objet de pouvoir. Ça, c'est aussi il y a un capital symbolique qu'on accumule sur la frontière, ou à la frontière. Alors, après, il y a effectivement cette question beaucoup plus large de l'intérieur et de l'extérieur, très très vaste. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où les auteurs en question écrivent l'essence, enfin, les plus politiques de leurs œuvres en France, dans les années 70, c'est l'époque d'un autre lieu commun qui est la fin de l'extériorité. Qui est effectivement, d'ailleurs 15 ans avant la chute du communisme, l'idée qu'effectivement, l'extériorité critique, l'extériorité politique, l'éventuel autre monde possible, là, dont on se gargarise aujourd'hui, serait toujours déjà à l'intérieur, mais qu'il y a extension du paradigme de la domination jusqu'à ses confins et qu'il n'y a plus d'extériorité. Au point qu'il y a dans ces textes d'époque, alors c'est pas ceux-là qui sont passés aux États-Unis, mais dans certains, je pense à dans le fameux entretien, enfin celui-là a été traduit dans le fameux entretien de Foucault et Deleuze sur les intellectuels et le pouvoir, mais aussi dans un texte de Jacques Rancière de cette époque-là, il y a l'idée tellement radicale que je crois, elle est même pas pensable aujourd'hui, je crois, que le savoir, il n'y a plus d'extériorité, le savoir, la construction de tout savoir devient l'objet, enfin, devient un stock de référence pour le pouvoir. Tout savoir, surtout en sciences sociales, qui est le grand champ de l'époque, mais aussi en littérature, offre au pouvoir les outils de la domination. Donc, il n'y a pas de savoir critique. Il n'y a que des savoirs qui s'offrent plus ou moins à leur insu au pouvoir. Donc, conclusion, et de Foucault, au passage, à moitié en riant dans cet entretien, et de Rancière, très sérieusement, dans un article de l'époque, le rôle de l'intellectuel est de saboter le savoir. Il faut égarer le savoir, c'est le seul moyen d'avoir un rôle politique. Bon. Tonalité d'époque, hein, parce que c'est... et c'est vrai que par rapport à ça, le cas américain est très différent, puisque eux ont l'avantage et l'inconvénient de ne pas se poser le problème, puisque l'isolement structurel de l'université et des types de discours qu'ils produisent leur évite cette question de l'extérieur et de l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur de ce qu'ils appellent la théière en ivoire, là, les tempêtes dans une théière, qui les éloigne des questions sociales transversales que posent à la même époque, enfin, 10 ans avant, les auteurs français. Donc voilà, cette question d'extériorité, ma difficulté, ça a été de lui de reconstituer son contexte américain, qui n'a rien à voir avec le contexte français. D'où les contresens, enfin, ou les détournements. Alors sinon, le troisième point, effectivement, l'article sur Derrida, c'est vrai que oui, c'est une position d'auteur tout à fait différente. Le seul lien entre les deux étant peut-être que entre les lignes de cet article, j'allais dire de circonstances, mais pas du tout, puisque bien sûr il a été écrit longtemps avant la disparition de Derrida, c'est aussi les contresens américains sur sa lecture, que d'ailleurs manifeste, je trouve, très clairement le film fait sur lui, qui est d'ailleurs un film intéressant à d'autres égards, mais enfin qui résume bien une certaine, comme ça, un rapport américain à Derrida. Et effectivement, le voir de l'intérieur ou analyser cette question du biographique, enfin du texte-monde, de l'amitié textuelle, c'est délibérément aborder Derrida sous un angle qui n'est pas l'angle de sa lecture américaine, qui n'est pas l'angle de sa généralisation, qui n'est pas l'angle du premier Derrida, du grammatologue, mais bien plus du deuxième ou du dernier. Donc effectivement, oui, c'est pas ce Derrida-là qui intéresse les Américains, je crois que ça, il n'y a pas de doute. Enfin, bon, la question de l'enseignement, là aussi c'est très vaste, je dirais simplement deux petites choses. D'abord, il y a la démarche d'ensemble du livre, qui est également la démarche de certains bouquins américains sur des questions parallèles, mais aussi de certains livres français, c'est inverser le rapport à la philosophie telle qu'on a l'habitude de le proposer ici en Europe continentale, c'est-à-dire un rapport aux causes, aux origines, au texte, c'est-à-dire à une régression vers le texte, inverser ça et proposer davantage les effets hors texte. Donc plutôt que les causes textuelles, d'où Foucault ou Deleuze parle-t-il, selon le mot de l'époque, s'intéresser à la question des effets qui, parce qu'elle pose en dehors de son aspect éventuellement séduisant, parce qu'effectivement il y a une facilité des effets, ça, il n'y a même pas à comprendre les textes, il n'y a même pas à être fidèle au texte, vive l'infidélité, enfin il y a toutes ces, effectivement là il pourrait y avoir une facilité, bon, mais ça pose aussi la question de l'âge. Et celle-là, elle est éminemment politique. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'avec toutes les réserves qu'on peut apporter à cette aventure américaine, tous les contresens américains, tout l'isolement ultra-rhétorique de cette institution universitaire américaine, malgré tout, ils ont développé un rapport d'usage, vraiment d'usage, qui soit existentiel, qui soit esthétique, qui soit le plus souvent politique, plus rhétoriquement, à des auteurs que nous n'avons lus en France que comme exégètes. Et de moins en moins, comme on le sait, sauf calendrier, triste calendrier culturel oblige. Donc voilà, passer d'un rapport herméneutique à un rapport d'usage, et là, bien au-delà de ces seuls auteurs, je crois que ça pose la question effectivement une analyse de cette notion d'usage, de remise en pratique, de remise en circulation politique et sociale des textes. D'ailleurs, j'ai trouvé effectivement, ça, c'est ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, il y a un changement d'ambiance, il y a peut-être un début de changement d'époque, parce que j'ai trouvé que dans la pléthore de textes commémoratifs très convenus pour les 20 ans de la mort de Foucault, il y a eu quelques textes et même quelques numéros de revues qui posaient vraiment la question de l'usage. Je pense par exemple au numéro de la revue Vacarme. Revue avec laquelle j'ai aucune affinité a priori, mais qui là pour le coup m'a stupéfait d'intelligence, parce que le je sais pas si vous souvenez, la couverture c'était Michel Foucault 1984-2004. C'était pas les dates de naissance et de mort, c'était ce qui nous en sépare, ce qui s'est passé depuis, en quoi ça peut nous servir, en quoi il s'est trompé, en quoi il a encore raison, enfin voilà, c'est l'idée des usages. Et là, c'est la première fois, j'avoue que c'est la première fois que j'ai vu un numéro de revue très française, parce que c'est très le champ social comme ça, l'ultra-gauche française, un numéro de revue français poser la question de l'usage du texte des grands hommes. Et ben, on ne va pas généraliser à partir de ça, mais ça me semblait un très bon signe.
C'est une question qui n'est pas si neuve, d'ailleurs, parce qu'il y a eu une époque où on a publié beaucoup de livres sur le mode « Ce qui est vivant et ce qui est mort » dans la philosophie de Hegel, par exemple.
Ouais.
Alors, c'est typiquement une question d'usage qui est posée,
ouais,
de ce point de vue-là. Mais merci pour la... surtout pour la dernière partie de la réponse.
D'accord.
Bon, voilà, je me tais.
Moi, c'est deux choses qui m'ont frappé. D'une part, c'est je crois que vous l'avez très bien montré par comparaison avec la philosophie analytique. Le premier point, c'est le caractère non nécessaire, finalement, d'un usage critique du textualisme, puisque on aurait pu recourir à d'autres disciplines, l'histoire ou la sociologie, et d'autre part, puisqu'un usage non critique de la linguistique était possible. La philosophie analytique a fait retour sur ces fondations sans pour autant s'en servir comme un outil de décrédibilisation finalement du discours. Et ça m'a amené à je sais pas, c'est un deuxième point, mais à me dire quelle image négative, quelle défiance finalement on avait à l'égard du littéraire lorsqu'on en faisait une manière de réduire, de dénoncer, de contextualiser la valeur de vérité de l'œuvre, lorsqu'on assimile une philosophie à un roman. Si c'est en mauvaise part, c'est faire une bien faible confiance au pouvoir cognitif de la littérature. Et en faisant parler la littérature presque malgré elle, puisque finalement elle dit des expressions extrêmement locales, c'est une vision très 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 faible de l'humanisme auquel on aurait pu d'un premier regard assimiler ce retour du texte au centre du débat.
Mmh. Bah, c'est à la fois une insulte et un compliment. C'est-à-dire que, effectivement, dans le contexte de la philosophie analytique, tout cela n'est que littérature. Enfin, bon, ouais. Il y a effectivement ce vieux mépris disciplinaire du scientisme des philosophes analytiques américains pour l'à-peu-près, le manque d'empirisme et surtout les propositions conceptuelles contestables de la littérature. Mais si littérature, dans ce contexte, est synonyme de tout ce qui fonde un constructionnisme, tout ce qui rend possible une analyse constructionniste des discours existants, donc à la limite de la vérité elle-même comme construction, quel compliment. Enfin, comment peut-on imaginer une définition plus large du paradigme littéraire? Parce que là, effectivement, il inclut tout un paradigme lié aux sciences sociales et plus récent. Il inclut une vieille lune de la philosophie qui est effectivement cet anti-essentialisme, cette méfiance vis-à-vis des essences, que d'ailleurs partagent les philosophes analytiques. C'est là où vous avez tout à fait raison de le dire. Il manque une occasion d'alliance. Mais il y a eu quand même des ponts. Alors effectivement, j'ai moins suivi, parce que récemment il y a eu une reprise de dialogue, mais il y a eu des ponts, il y a eu, Richard Horty, je l'ai cité, il y a eu plusieurs philosophes analytiques qui ont proposé de redéfinir le concept de pragmatisme, hérité de la tradition de William James, à la lumière de ce qui s'était passé dans l'université américaine depuis 20 ou 30 ans, et de se demander, qu'est-ce que ça veut dire que... Il y a l'invention d'un courant qui est la poétique pragmatiste. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est la tentative, c'est sûr, de jeter un entre la littérature méprisée par les philosophes analytiques et la tradition pragmatiste. Cela dit, c'est vrai que pragmatisme et philosophie analytique, c'est deux choses différentes, puisque le pragmatisme est la tradition philosophique proprement américaine du 19e siècle, et comme on le sait, la philosophie analytique est un import d'Europe centrale lié à tout un contexte idéologique, les années 30 puis la guerre froide. Donc effectivement, je pense que ce qui est plus fondamentalement américain en philosophie, c'est James, c'est Dilthey, c'est Austin, plus que ce scientisme effectivement anti-littéraire.
Si dans les rapports que vous avez proposés entre la littérature et son dehors, ce qui est frappant, c'est le refus. De cette culture-là, et qui est expliqué dans le livre, de les penser en termes de complémentarité entre la littérature et les sciences humaines, ou entre la littérature et la philosophie, ou entre la France et l'Amérique, qui serait la matière dont l'Europe est la pensée, enfin, ce que vous dites sur les États-Unis comme réalisant toujours déjà une pensée mise en œuvre par la théorie française, donc le refus de les penser en termes pacifiés ou dédramatisés, et au contraire l'insistance pour parler en termes d'empiètement, de continuisme. Par exemple, j'étais frappée par l'analyse la plus littéraire que vous avez proposée sur la création d'une langue à travers la traduction, qu'on pourrait peut-être comparer avec la création d'une langue phénoménologique par la traduction de Husserl en France, ou la labellisation des concepts plus forte que dans la langue d'origine, ou la citation comme création d'un espace commun, ou ce que vous disiez sur la production d'un espace où flottent des noms propres et des noms de concepts qui deviennent des noms propres. Disons, ce qui est ici perceptible en termes de pouvoir, de stratégie de conquête, dans l'espace français, on penserait peut-être plutôt justement en termes de complémentarité disciplinaire ou emprunt à cause des rapports historiques entre style et pensée. Je mélange les historiques là dans ma question, mais cette façon, disons, de polémiser la frontière, elle est presque difficile à penser en France à cause de la collusion historique entre style et pensée, qui a au fond toujours fait de la littérature et de ses dehors de bons voisins, malgré le déplacement des frontières. Et ça, c'est très frappant, je trouve, la haine de la dialectique, ou le refus de la pacification des rapports dans cette culture-là. Est-ce que c'est juste ou...
Non, c'est très intéressant ce que vous dites. Je pense qu'on touche aussi à une limite rhétorique de tout ce discours théorique américain, parce que l'une de ces professions de foi politique les plus fréquentes, c'est l'antidualisme, chose qui ne veut pas dire grand-chose, effectivement sortie là aussi du contexte philosophique continental, mais qui dit antidualisme ou antidialectique, c'est pareil, empêche de se prêter à des complémentarités de ce type empêche de penser l'éventuelle complémentarité entre ce que vous appelez style et pensée, parce que ce serait, toujours dans leur terme, ce serait accorder trop de foi à ces deux catégories, ce serait renouveler un dualisme fond-forme ou un dualisme empirie-idéalisme, si vous voulez, que tout le corpus théorique sape. Donc, mais là, là, on touche à une limite rhétorique, c'est purement rhétorique, parce qu'effectivement, tactiquement, il va de soi qu'il y a toutes les complémentarités possibles étaient là. Enfin, il y a même, je pense même dans d'autres disciplines, par exemple, je me suis intéressé au dialogue entre, enfin, au dialogue qui aurait été possible, mais qui n'a pas été, entre Foucault et l'anthropologue Clifford Geertz, dont les propositions, voilà, théoriques en sciences sociales sont assez proche de celle de Foucault, pas complètement. On est là exactement dans ce que l'université, effectivement, pense comme une complémentarité. Il y a un dialogue fécond. Eh bien non, c'est interdit, parce que dans le contexte ultra-polémique qui est celui de cette époque-là, Geertz est poussé par certains de ses collègues à dénoncer Foucault, ce qui fait que le dialogue n'a pas lieu, ce qui fait que Foucault, je crois, ne l'a jamais rencontré, alors même qu'il va, il travaille sur des champs et sur des problématiques très proches, quoi. Donc oui, non, complémentarité, elle existe en fait. Moi, je trouve qu'elle est manifeste, puisque si on peut déployer un arsenal théorique pareil sur aussi bien des textes de la tradition littéraire que sur des objets de la culture populaire contemporaine, c'est bien qu'on est en train de tisser une complémentarité nouvelle. Sauf que quand on leur pose la question, ils la refusent parce qu'ils ne veulent pas faire le jeu du dualisme dominant.
En t'écoutant, je me disais que peut-être le modèle sur lequel j'envisage les choses quand j'ai lu le French Theory, c'était celui de l'isolement de la France, comme si on racontait une histoire à laquelle n'avait pas participé la France par ignorance, par désintérêt, etc. Et finalement, peut-être que ce serait plutôt une sorte de malentendu de chasser-croiser, c'est-à-dire que alors qu'aux États-Unis on fait de la littérature, on fait entrer le monde en entier dans la littérature, on importe un peu tout et n'importe quoi, sans se préoccuper de savoir ce que serait la littérature, l'obsession, au contraire, en France, ça a été de définir la littérature. Et d'une certaine manière, on lit toujours quand même un peu les mêmes auteurs, parce qu'en France, on lit aussi Foucault, Deleuze, etc. Mais on les lit aussi dans le département de littérature, plus que finalement philosophie, d'une certaine manière, où ils n'ont pas le droit de citer un petit peu. Ça change à l'heure actuelle avec Foucault notamment, ça c'est la publication des cours, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils n'avaient encore pas le droit de citer. Donc on lit un peu les mêmes textes, on lit très différemment. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, parce que le but n'est pas du tout le même. En France, ce serait de redéfinir, d'approfondir, comme une sorte de continuation du paradigme qui était celui des années 50, de littérarisation, enfin de recherche de la littérarité. Au contraire, aux États-Unis, ce serait d'éclater complètement le... Donc, ce serait un modèle plus cohérent, au sens où ce qui s'est fait en France n'est pas complètement une sorte de... un petit peu hors sujet, mais ce serait une recherche tout à fait autre de la pratique littéraire.
Il y a deux choses là, dans ce que tu dis. Ah bon, effectivement, moi je n'ai pas de vision panoramique ou panoptique des études littéraires en France, mais il me semble qu'on lit Foucault et Deleuze très marginalement. Enfin,
je suis pas si sûr. Moi. Ça dépend des universités. Alors, peut-être, mais je pense pas.
Jusqu'à Paris 4, on lit Deleuze.
Non, pas à Paris 4, mais je pense que à Paris 7, à Paris 8 et dans beaucoup de facultés, en fait, je pense qu'on le lit quand même. Parce que Foucault aussi, on enseigne Foucault. Moi, je l'ai enseigné pendant 4 ans avec Vincent, on l'enseigne.
En littérature.
Alors, les mêmes textes, c'est ça qui est assez drôle. Hein.
D'accord. Ouais. Oui, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'effectivement, à la limite, c'est la survivance d'une époque où les questions théoriques sur la mort de l'auteur ou l'impersonnalisation, il faut bien les poser, puisqu'elles ont été posées, qu'elles sont riches, et effectivement, qu'est-ce qu'un auteur ou tel texte de Barthes sera la manière de le poser. Ouais. Mais ça, il me semble pas que ça prouve que Foucault est une place...
Non, bien sûr.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est éclipsé en philosophie, ça, il n'y a pas de doute.
Mais justement, je l'ai quand même beaucoup lu, et en histoire, et dans les sciences sociales.
Ouais, usage en effet, mais ouais, je ne sais pas s'il est lu, c'est pas vraiment... Enfin, il n'est pas au programme, il n'est pas... en revanche, il est méthodologiquement...
Il y a un séminaire Foucault des sciences sociales à au département de sciences de à l'UHSS et à l'ENS.
Tu viens de citer deux institutions ultra marginales dans l'université française.
Ouais.
Et effectivement, du coup, davantage porté vers ces croisements entre disciplines.
Oui, c'est aussi le lieu où se développent les sciences sociales. Enfin, moi, ce que j'ai plutôt l'impression, c'est que Deleuze et Foucault sont lus plus du côté des sciences sociales, que du côté de la littérature, et encore plus que du côté de la philosophie. Je pense que Deleuze en philosophie, c'est quasiment impossible de faire une thèse de philosophie sur Deleuze, c'est très difficile.
Dans le cas de Derrida, il y a de grands textes critiques qui, au fond, sont maintenant incorporés au corpus critique. Je pense La parole soufflée, enfin, pendant des textes sur Artaud, il y a une grande... Bon, même de la grammatologie, enfin, je veux dire, bon, à l'époque, je me souviens d'avoir utilisé la grammatologie comme manuel de cours, à l'époque où je travaillais sur l'essai sur l'origine des langues, c'était un des textes de référence, hein. Et je crois que des textes de cette période-là sont... ont leur place, mais ils sont incorporés, dans bien des cas, au corpus critique... Des études sont bon, ils y ont pris leur place, mais c'est pas le cas des textes ultérieurs de Derrida, de la production ultérieure de Derrida, pas du tout.
Un cas intéressant, c'est celui de Kristeva, par exemple, parce qu'elle, Kristeva continue à faire, elle fait sa carrière en France, elle n'a pas besoin de partir aux États-Unis. La logique de Kristeva, c'est en partant de problématiques qui peuvent être proches finalement. Qui peut être très, très textualiste aussi au départ, dans la sémi-analyse, etc., et à aller de plus en plus du côté de la littérature, jusqu'à une sorte de littérature qui est finalement très paricate, les derniers textes, tous les textes sur la révolte, etc., c'est une sorte d'humain, enfin, c'est une pensée très, très classique.
Y compris ses biographies, effectivement, de grandes figures féminines.
Voilà, oui, alors, c'est encore, là encore plus. Donc finalement...
n'interroge pas le paradigme biographique, alors qu'elle a été la grande théoricienne de
mais sans renier non plus son passé d'une certaine manière, elle continue à l'intégrer quand elle fait ses cours, en tout cas à l'intégrer. Donc, le parcours de Kristeva, c'est peut-être, c'est en quelque sorte, c'est l'opposé d'une certaine manière de ceux qui, enfin, des lectures qu'on a faites aux États-Unis, mais ça montre qu'on peut faire un parcours en France en lisant toujours et en étant d'une certaine manière fidèle à tout un corpus classique des années 50-60, en faire le parcours et aller de plus en plus du côté de la littérature, d'une recherche, d'une quête de littérarité, de ce qui définit la littérarité, contrairement à ce qui se fait un peu aux États-Unis.
Oui. Enfin, j'ajouterais juste que de l'ensemble des auteurs, enfin. Qui forment ce corpus, Kristeva et Roland Barthes, et d'ailleurs pas Derrida, sont ceux qui disciplinairement viennent de la littérature, ils sont en partie restés, ils reviennent, enfin, sont ceux qui finalement posent le moins problème. Il n'est évidemment pas question qu'ils soient, qu'ils soient faits usage d'eux hors du champ littéraire, je ne vois pas. Mais je voulais aussi revenir sur ce que tu disais sur l'isolement français, est-ce qu'il y a isolement français ou pas. Bon, c'est une question trop vaste pour être abordée aussi vite, mais ce qui m'a surpris, et là c'était vraiment une découverte, c'est quand j'ai tenté de faire, alors très très superficiellement, et de manière très contestable, mais petite enquête de globe-trotter sur les avatars politiques, esthétiques et universitaires de la théorie française, ni en France ni aux États-Unis, le reste du monde. Et là, j'ai soulevé un coin de voile sur un champ d'une richesse incroyable, avec chaque situation étant singulière, on peut même pas en tirer les conclusions générales. J'ai découvert par exemple que en Amérique latine, Foucault et Deleuze ont un rôle absolument crucial dans l'université pour permettre aux étudiants et aux chercheurs de se libérer enfin du paradigme marxiste-léniniste qui est dominant dans l'université des pays latino-américains. Bon, voilà, là, ça joue un rôle crucial. Les théories de l'art au Japon a été radicalement renouvelée par une lecture de Deleuze au point que, effectivement, bon, là, cette idée absurde qu'il y ait des artistes deleuziens, je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, il y en a au Japon. Bon, en tout cas, il y a usage. Et c'est là où le rapport simplement exégétique ou calendaire, parce que je persiste à croire que on entend beaucoup parler d'eux, mais à date fixe ou dans certains cadres fixes qu'on a en France, est beaucoup moins riche et n'épuise pas les usages possibles, beaucoup moins riche que ce qui se fait à l'étranger. C'est un paradoxe.
Il y a une direction qui est intéressante dans votre ouvrage, c'est qu'on voit des effets de rétroaction sur la production artistique.
Oui, de retour en France. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. C'est une autre question, mais qui est très surprenante, c'est que on pourrait dire la théorie française fait retour en France déguisée en communautarisme américain, enfin ce que ceux qui détestent ça appellent le communautarisme américain, donc en contrebande, parce que globalement pas vraiment bienvenue ici. Ce qu'on voit à des signes épars, mais des signes incontestables comme La création de centres d'études gays et lesbiennes dans 2-3 universités, et puis même l'introduction dans l'espace public et dans le débat politique de questions identitaires interdites de séjour avant, bon, venant des États-Unis, mais alimentée de lectures théoriques américaines, lesquelles, évidemment, n'existeraient pas sans la théorie française. Donc, il y a un effet retour très curieux, voilà, où ils reviennent déguisés, ils reviennent américanisés. Si
Nicolas Vandin.
Vous avez opéré une distinction, si j'ai bien compris, entre une philosophie qui ferait avec la littérature et une philosophie qui ferait sans la littérature. Et vous avez même parlé de mépris d'une certaine philosophie pour la littérature, ce qui me fait un peu sursauter. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt, au lieu d'utiliser la littérature comme un gros ensemble compact, parler de différents canons? Et que chaque philosophie utilise ou traite son canon littéraire, son corpus. Par conséquent, que la philosophie analytique n'est pas forcément dans un mépris de la littérature, mais a peut-être un autre canon littéraire que la philosophie postmoderne européenne. Et ainsi, que l'opposition n'est pas finalement entre la littérature et sans la littérature, plutôt différents corpus. Mmh.
Évidemment, enfin, ce que vous dites est tout à fait juste, mais en fait j'entendais là, dans ce cas-là, littérature comme un ethos, comme une disposition, c'est-à-dire comme une démarche générale consistant effectivement à généraliser un soupçon narrativiste ou un soupçon textualiste, et non pas comme un ensemble de textes ou une région de cet ensemble. Là j'entendais vraiment littérature comme ce qu'a produit comme paradigme ce qu'ont produit ces 20 ou 30 ans d'aventure théorique aux États-Unis. Parce qu'évidemment, loin de moi l'idée que les philosophes méprisent la littérature comme corpus de textes, bien sûr que non, ils en font plus qu'usage. En revanche, ils ont effectivement, pour certains d'entre eux, un mépris pour cet ethos que eux disent relativiste, constructionniste, radical ou textualiste, qu'ils considèrent être l'éthos des littéraires. Enfin, c'est le mot de disposition, je trouve que c'est le bon mot. C'est un mot de Pascal Engel qui effectivement analysait la philosophie continentale et versus la philosophie américaine, et qui disait c'est deux dispositions théoriques ou philosophiques. Je crois que c'est vraiment ça. Voilà, c'est la littérature comme disposition.
Mais du coup, enfin, c'est plus vraiment la littérature qui est en jeu, c'est plus vraiment ça l'enjeu, puisque cette disposition finalement n'est pas essentielle à un corpus de texte.
Oui, mais tout à fait, mais on part de l'idée que la définition d'accord comme simple corpus de texte, enfin, je ne vais pas dire simple parce que c'est infini, a éclaté. Et c'est de cet éclatement, de cette explosion, de cette invalidation de la simple définition de la littérature comme ensemble de textes, que naît tout ce dont on parle. C'est-à-dire que tout commence là. C'est vraiment c'est le geste premier qui permet l'invention de ce paradigme. Donc bien sûr, je ne dis pas qu'en vérité, la littérature est disposition, est démarche d'esprit, est paradigme. Non, non, je dis simplement que c'est, voilà, à l'intérieur de la sociologie universitaire américaine, ce qui s'est passé. Et c'est vrai que, mais en même temps vous avez raison, parce qu'on pourrait, en fait j'emploie le mot littérature comme l'emploient les Américains, et c'est vrai que c'est très curieux en français, parce que...
Pas les Américains, un paradigme en particulier.
Oui, mais finalement, parce qu'ils opposent, voilà, une mauvaise littérature, qui serait la littérature comme disposition, comme démarche théorique, enfin les conservateurs disons, à la littérature réelle comme ensemble de textes légués par l'histoire. Donc non, là j'emploie vraiment à dessein le terme américain. C'est vrai que ça fait moins sens dans le contexte français.
On dirait plutôt littérarisation, en fait. On pense plutôt à un processus de littérarisation, et on a tendance quand même à appeler littérature plutôt le corpus constitué.
Oui, c'est vrai.
Dans le pamphlet sur l'affaire Sokal, Bourès parle exactement en ce terme-là, littérature, de l'abus de la littérature, et des belles lettres, et comme s'il y avait comme si dans chacun de ces modes de rapport entre la littérature et son dehors, il y avait un synonyme fonctionnel de la littérature, parce que pour le pour l'option constructiviste que défendait Alexandre tout à l'heure, c'est peut-être la fiction qui sert de synonyme le plus proche. Pour l'option du soupçon, c'est le texte qui est synonyme. Pour l'option pacifiée, c'est le style ou la figure. Enfin, disons, ce qui de la littérature est mobilisé n'est jamais la même chose.
Que d'outils de déconstruction.
Je voulais poser une question assez simple et peut-être naïve. On parle de littéralisation, mais en fait, on a l'impression que la lecture américaine de la théorie française fait une sorte de coup de force en disant c'est pas de la philosophie, c'est de la littérature. On a l'impression que c'est sur le mode, pour reprendre le thème de la frontière, de l'annexion. On annexe certains textes qui ne sont pas a priori lus comme littéraires, on les annexe à la littérature. Mmh. Et la question que je me posais, c'était finalement, est-ce que cette lecture est pertinente? Est-ce que la vraie question, c'est pas de se demander finalement, est-ce que c'est légitime? Quelle est la légitimité de lire ces textes comme des textes littéraires? Est-ce que ces textes-là ne donnent pas eux-mêmes cette lecture? C'était juste...
C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est effectivement l'annexion d'un ensemble de textes à un champ disciplinaire, comme s'il n'avait jamais été écrit depuis la philosophie ou en philosophie, sauf qu'à mon avis, enfin moi c'est aussi à partir de... Alors là c'est vraiment un principe éthique, c'est à partir de ce principe éthique que même un livre comme ça est possible, il n'y a pas de lecture légitime, je pense. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de lecture légitime au plan disciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une assignation disciplinaire légitime des textes, même s'ils sont écrits effectivement depuis un champ constitué, parfois même dans la défense, parce que ça, je le rappelle, effectivement, tous les gens en question ont été les défenseurs acharnés de la philosophie comme discipline, de l'enseignement de la philosophie, etc. Malgré tout ça, je ne pense pas qu'on puisse les assigner à...
Mais alors, en fait, quand on dit littérature, ça veut dire qu'on peut les lire comme nous. C'est très bizarre, enfin, on a l'impression de... Ce que vous dites, quand on considère qu'un texte est littéraire, on a l'impression que alors on peut en faire l'usage, enfin un usage plus libre, enfin plus personnel.
Oui. Non,
à ce moment-là,
oui,
à ce moment-là, on peut faire du texte, une libre interprétation.
C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'opération consiste effectivement à décontextualiser les textes de leur environnement disciplinaire, à les déphilosophiser, mot horrible, et ce qui rend possible, ce qui rend légitime effectivement toute cette polysémie, tout ce rapport au contresens productif, à la mélecture, à la trahison légitime, à tout ce qui pour moi relève de la rhétorique, parce que lire Deleuze, ça demande beaucoup d'efforts et une vraie culture philosophique, et donc ça se fait pas avec du contresens créatif, quoi. Mais effectivement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on les retire, on les sort de leur contexte philosophique, ça rend possible toute interprétation. Ils sont nus.
Ça veut dire qu'il y a déjà, vous parlez de disposition littéraire, ça veut dire qu'il y a une prédisposition littéraire dans ces textes eux-mêmes.
Ah non, pas dans les textes.
Non, c'est là que je comprends pas, mais je suis complètement néophyte dans la matière, donc...
Pas dans les textes, sauf que ces textes ont pour objet polémique et pour objet théorique, souvent, pour beaucoup d'entre eux, la remise en cause, effectivement, de tout un ensemble de paradigmes philosophiques continentaux, du sujet, de la raison, de l'histoire linéaire, et que c'est de ce côté-là qu'il y a convergence possible. Mais non, cette dimension littéraire, ou cette disposition vague, ouverte à toutes les interprétations, me semble pas... être dans les textes, enfin oui elle l'est parce que c'est des... parce qu'il y a oui
elle est parce qu'on dit tout.
Et puis elle l'est parce qu'il y a Nietzsche, c'est-à-dire que c'est quand même il y a quand même cette logique nietzschéenne de l'infinité des interprétations qui voilà, c'est quand même des auteurs qui n'existeraient pas sans une certaine lecture de Nietzsche, mais ils n'auraient pas été ravis de voir certains des contresens dont ils ont fait l'objet aux États-Unis.
Deux points, notamment, assez ça, sur Bourdieu, sur la théologie, qui est dans tous les goûts. Sur Bourdieu, je voulais savoir simplement si Bourdieu était annexé, alors peut-être plus récent, à ce corpus de théoriciens français, et puis peut-être aussi comment tu te situes par rapport à la pensée de Bourdieu. Alors dans ton livre, il y a des moments où Bourdieu est traité dans le corpus. Il y a des moments où il est mobilisé comme méthode, mais pas partout.
C'est vrai que c'est très ambigu, et puis ça n'avait pas été planifié, ce rapport à Bourdieu. D'abord, il y a eu la décision de l'exclure du corpus, du noyau dur des auteurs en question, décision qui pourrait être, qui pourrait être contestable. Il y a au moins deux raisons à ça. Un, c'est que il a été, lui, utilisé autant dans d'autres disciplines qu'en littérature, évidemment en sciences sociales, malgré toutes les résistances que ça a suscité. Donc ça, ça me faisait déjà un critère qui me permettait de le sortir du groupe. Et puis c'est un peu plus tardif. C'est même nettement plus tardif, c'est plutôt la fin des années 80, début des années 90.
Certains ressorts fonctionnent par la récupération du revenu.
Du même ordre. D'ailleurs, c'est l'ensemble de cette espèce de discipline, de transdiscipline un peu molle qu'ils appellent cultural theory, la théorie culturelle. C'est ça qu'on. En fait, c'est le cours de théorie que les littéraires doivent suivre, qui s'appelle souvent comme ça. Alors dans les universités plus à gauche, on appelle ça critical theory, qui n'est pas exactement la théorie critique de l'école de Francfort, enfin pas loin. Mais sinon, c'est disons la théorie culturelle. Et théorie culturelle, alors les auteurs types de la théorie culturelle, c'est effectivement, je sais pas, ça sera Foucault, Bourdieu, De Certeau. Voilà, ça, c'est, pour eux, c'est ça la théorie culturelle. Que veut dire la théorie culturelle? Je ne sais pas. Mais effectivement, ils ne peuvent pas faire l'économie de certains outils théoriques chez Bourdieu. Je pense qu'ils rentrent moins dans le noyau dur très strictement constitué que j'ai appelé théorie, enfin, qu'ils appellent théorie française, parce que finalement c'est ailleurs que se passe la problématique théorique bourdieusienne, elle se passe ailleurs, elle n'est pas du côté d'une déconstruction du canon philosophique occidental, elle est pas là. Alors maintenant mon rapport à ça, c'est vrai que mais je pense que c'est un rapport de littéraire ou théoricien, c'est justement un rapport de non-sociologue. J'ai été très séduit par tout un ensemble d'outils que j'ai tiré du livre le plus contesté apparemment de Bourdieu, enfin l'un des plus contestés, qui est « Les règles de l'art », où je trouve justement, précisément, qu'il y a... il propose une méthode d'analyse territoriale des champs disciplinaires, des stratégies d'accumulation de capital symbolique, enfin tout ce jargon sociologique bourdieusien qui fait peur légitimement aux littéraires, il la propose très finement, parce qu'il n'est jamais question de déterminisme, il n'est jamais question de réduire la production du sens, les effets de sens, les effets de vérité de la littérature à ces logiques-là. Il est simplement question d'autonomie du champ ou pas, puisque c'est là-dessus les règles de l'art. Et c'est vrai que analyser la constitution d'un champ autonome, comme il le fait de la littérature de Flaubert jusqu'au surréaliste, pour ça il déploie des outils qui vraiment m'ont été très utiles pour analyser le champ théorique, le champ de la theory comme champ autonome, comme constitution d'un champ autonome dans l'université américaine, avec le même genre de bagarre symbolique, donc voilà, c'est l'usage que j'en ai fait. Mais c'est un usage partiel, les bourdieusiens doivent détester parce qu'effectivement c'est tout ou rien pour eux, enfin on peut pas comme ça picorer et utiliser. Mais il me semble que c'est opératoire, précisément parce que ce dont il s'agit, c'est de la concurrence des champs de savoir, c'est le conflit des facultés. Homo Academicus, livre ancien s'il en est, quoi, c'est un de ses tout premiers.
Je crois que c'est très convaincant, enfin cet aspect-là, c'est très convaincant, et il me semble que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a le sentiment que le scénario qui s'est joué dans la phase de constitution de l'autonomie du champ se rejoue à un niveau méta, en quelque sorte, dans l'histoire, c'est ailleurs et à un autre niveau, mais selon des procédures et un scénario tout à fait, ça marche très bien. Et c'est la preuve, me semble-t-il, de ce que ce livre est un livre fondamental, un livre qui doit nourrir notre réflexion, et qui, même si on l'a à la lettre, qu'on intègre ça dans notre manière de voir les choses. Je suis convaincu personnellement. Il me semblait que vous vouliez...
Pardon, Marc, excuse-moi. Un deuxième point, vous êtes tellement conclu, vous essayez de dire ce que vous avez vraiment frappé à la lecture du livre de François Cussé. En prenant l'exemple de la théologie dont je parlais tout à l'heure, les rapports entre études littéraires et théologie existent en France, pour le CPLC notamment, pour Pascal, etc. Mais je dirais que ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va aller chercher chez les théologiens un savoir qu'on va importer vers la littérature. Alors que dans le contexte américain, ça se passe exactement à l'inverse. Et là, sur la question de légitimité et d'illégitimité, je trouve qu'on pourrait donner la question d'une forme très, très brutale, c'est-à-dire pourquoi est-il légitime d'emprunter
à la théologie ou à l'histoire des idées ou à l'histoire de la philosophie, l'émotion, pour l'étude des textes littéraires, et pourquoi il serait illégitime de faire le mouvement inverse.
Mmh. Oui, c'est...
Par exemple, la question de Voltaire,
c'est ça. Non, mais c'est absolument juste dans le cas. C'est bien pour ça que, bon, je l'ai fait trop rapidement, mais avec non sans ironie, puisque en fait, c'est pas les théologiens d'ailleurs, c'est les professeurs de théologie, ce qui est très différent. Et attention, après, c'est comme les études filmiques finalement, c'est-à-dire qu'il y a, des cours de théologie dépendants du champ des humanités, c'est-à-dire des graduate schools américaines généralistes. Et il y a des écoles religieuses. De même qu'il y a des film studies, analyse très littéraire des films, dépendant du champ des humanités, et il y a des film schools. Donc, c'est encore plus caricatural qu'il y a une étude d'Eridiano-Foucauldienne du droit dans le champ des humanités, et que ça n'a rien à voir avec les law schools d'où on sort toute l'élite américaine. Donc, ce que je disais ne concernait pas effectivement la religion dans son ensemble, l'institution religieuse ou les écoles religieuses. Mais vraiment, ces théologiens, enfin, ces professeurs de théologie un peu atypiques qui sont évidemment des croyants, mais qui sont dans le cadre des humanités, quoi. Et effectivement, ils empruntent, c'est vrai, ils inversent la proposition, ils empruntent un certain savoir littéraire, un savoir qui d'ailleurs n'est pas le leur, un savoir dont les littéraires sont locataires, puisque c'est un savoir théorique lui-même importé d'ailleurs. Je crois que là, ça relève aussi de cette même logique sociologique d'ensemble, un peu bourdieusienne, qui est la surenchère de l'innovation pour l'innovation à l'intérieur de chaque champ, à la fois pour faire rayonner ce champ dans le conflit des facultés, et surtout pour offrir une stratégie de carrière à ses défenseurs individuellement. Il s'agit en permanence, enfin c'est vraiment l'impératif de l'innovation, le fameux publish or perish, c'est ça, c'est-à-dire que écrire un livre, il s'agit non pas d'écrire un livre à chaque fois, mais il s'agit de proposer un concept nouveau, dont la nouveauté.
Mais c'est une leçon de l'histoire, si j'ose dire, c'est que une discipline qui va bien, c'est une discipline, pour aller bien, une discipline, elle a davantage besoin d'audace que de prudence, quelque chose comme ça.
Oui. Ah ben pour aller bien, ça dépend ce que vous entendez par aller bien. Si c'est pour aller bien, pour asseoir sa place dans ce conflit des facultés, donc sa place budgétaire, épistémologique, etc. Oui, pour aller bien fondamentalement, je suis pas sûr.
Pour maintenir une discipline avec un public.
Oui, alors il s'agit d'attirer les étudiants. C'est vraiment à cause du fonctionnement des études généralistes undergraduate, donc des collèges américains, c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il faut attirer les étudiants vers un certain nombre de cours, et pour ça, c'est exactement comme attirer des consommateurs vers une boutique plutôt que vers une autre. C'est vraiment le même principe. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs au nombre d'étudiants qu'on aura attirés qu'effectivement on pourra réclamer une augmentation des budgets. Donc il y a vraiment cette logique de marché que j'ai essayé de pas caricaturer, mais qui est le contexte, enfin le socle matérialiste de tout ça, et qui joue, y compris au point de vue de théologie. Donc, renouveler l'étude de la théologie en proposant ce qu'ils appellent l'évangélisme postmoderne, la théorie de l'errance d'Eridienne, c'est-à-dire que heureusement que le croyant doute, c'est parce qu'il doute et c'est par cette errance et par cette dérive qu'il retrouve la foi, bon, qui est après tout là aussi une vieille lune qui n'a rien de neuf, mais bon, on la justifie à cette longue citation de Derrida. Bon, voilà, là ça fait du neuf, et faire du neuf dans tout champ disciplinaire américain, c'est triompher, quoi.
Je ne sais pas si la baisse des effectifs en lettres aura les mêmes conséquences épistémologiques en France. Claude Coste avait une question.
Par un paradoxe. Et j'ai écouté des connotations de ce que vous disiez, et on a tous commencé par parler d'ornière, d'isolement, finalement par rapport à quoi d'ailleurs, hein, de retard, etc. Donc un côté assez négatif d'ailleurs ce qui se passait dans notre pays. Et puis en vous écoutant, vous avez été très très critique finalement avec cette French Theory. Quand on c'était très négatif ce que vous disiez, moi c'était beaucoup moins caracolant, si vous voulez, que l'introduction. Vous avez quelque chose de très paradoxal dans votre discours. Vous étiez comme si on était obligé d'être, comment dire, pauvre. Et puis votre discours était beaucoup plus nuancé, il avait tout à fait raison, c'est pas une critique. Et vous étiez beaucoup plus critique. Et ce qui a vraiment retenu l'aspect positif de cette trend theory, c'est au fond ce vieux rêve d'intellectuel français de renouer avec l'action. Que je parle en tant que lecteur de Barthes, le métalangage redevient langage objet. Ce vieux rêve, c'est Sartrien, finalement, hein, c'est Bartésien, c'est un truc que lui, il a compris avec la littérature, finalement, qui pouvait rejoindre avec le monde. Hein.
Et plutôt que de faire penser en motif, en entendant ça, hein, mais je pense que de faire penser finalement en voulant que finalement que ce monde est fait.
C'est pas quelque chose. Mais alors, je me demande, est-ce qu'on ne se verse pas un peu d'illusions? Est-ce que ces habits, que sont les habits, que sont les universités américaines, est-ce qu'elles ont tant d'influence que ça sur ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas un développement parallèle, si vous voulez, parce que quand je vois le décalage, par exemple, entre ce qu'il peut y avoir d'intelligent dans une certaine théorie américaine et la bêtise d'un certain militantisme, je dis d'un certain militantisme, d'accord avec moi, hein,
ouais.
On se dit qu'il y a quand même un océan entre les deux.
Mm-hmm.
Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Et quand vous dites au début, en riant, après tout, c'est peut-être la conséquence négative de cette théorie d'avoir permis la réaction de Bush. Est-ce que le paysan du Nebraska, ou le métallurgiste, ou tous les noirs qui ont voté Bush d'ailleurs, se sont tellement positionnés en fonction de ces questions-là? Est-ce que finalement nous n'avons pas un grand débat d'intellectuels français?
C'est sous-estimer l'impact sur la société américaine d'une tradition hystériquement anti-intellectualiste, qui est quand même la tradition américaine, et sur laquelle ont joué les néoconservateurs pour dire regardez mauvais usage de l'argent du contribuable.
C'est superficiel, ça. Ce sont pas les concepts de la nouvelle théorie qui ont été débattus dans une salle de prêche à Oklahoma City et qui ont provoqué, si vous voulez, le vote anti-Bush.
Non, pas directement, mais il y a quand même la question des minorités. C'est-à-dire qu'il y a la question qui est cruciale pour l'organisation actuelle de la société américaine, melting pot contre intégration, enfin ces différents modèles concurrents.
On peut se poser la question sans la théorie. Je pense que l'américain moyen se la pose sur la théorie.
Il se la pose sur la théorie actuellement. C'est vrai que moi, ce que j'analyse, c'est davantage les années 80. Et dans les années 80, l'américain moyen ne pouvait pas échapper, tellement c'était un débat, c'était devenu un débat national, au discours rhétorique extrême du minoritariste universitaire, qui lui n'aura effectivement, vous avez raison, aucun impact hors des campus. Mais il ne pouvait pas y échapper parce que voilà, les néoconservateurs sortaient ça en permanence comme mauvais exemple.
Est-ce qu'il n'y a pas des développements parallèles face à deux questions qui sont des questions de société?
Non,
il y a rapport.
Ouais, on peut se demander, vous avez dit à un moment, ça m'avait frappé, l'expression identitaire est un sous-produit de la littérarisation.
Bon, je pense pas.
C'est pas le contraire.
Je ne comprends pas, en termes, disons, un marxiste de base dirait plutôt le contraire. Hein. C'est-à-dire qu'un certain nombre de données socio-économiques lourdes produisent ce type d'effet et ont des répercussions. Malgré tout, ça me chiffonne un peu de le penser dans ces termes-là.
Enfin, après, il faut la replacer dans un contexte historique, parce que c'est pas toute l'expression identitaire. Ça, effectivement, c'est très relativiste. C'est celle de l'étudiant appartenant à une minorité au terme d'un cycle d'études où il a croisé ces textes-là. Et d'ailleurs, ça répond en partie à votre question de savoir s'il y a un impact au-delà de l'université. Dans un pays où 85% de la population passe par le collège, on peut dire qu'il y a un impact. Alors évidemment, ils auront vite oublié. D'abord, c'est des années, c'est une parenthèse, c'est des années effectivement d'enthousiasme et de fête, mais il n'en reste pas moins que certaines stratégies d'affirmation identitaire.
Et leur rhétorique se constitue là, en fait.
Se constitue là. Mais évidemment, loin de moi, jamais je pourrais dire c'est de la littérature que vient, parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus urgents qu'ont à affronter ces différentes communautés, beaucoup plus urgents que la question du canon littéraire ou des littératures minoritaires.
C'est vrai que ces textes-là, si précisément ils ont été importés parce qu'ils sont citables, ils se sont vraiment diffusés sous la forme de lieux communs. L'exemple que tu donnes au début, Woody Allen peut intituler son film Deconstructing Harry, ce qu'on ne peut pas traduire par Déconstruire Harry en France, parce que personne ne comprendrait. Personne ne comprendrait. Alors qu'aux États-Unis, c'est déjà passé à l'état de lieu commun.
Mais qui va voir le film?
Oui, non, mais bon.
Ouais, j'ajouterai quand même un point, c'est que effectivement on ne peut pas résoudre, enfin c'est une vieille, là aussi une vieille question que celle de savoir l'ampleur exacte d'un impact et est-ce que nos débats intéressent le fameux prolétaire éloigné dont on crée d'ailleurs une fiction en disant ça parce que tel quel il n'existe pas. C'est beaucoup plus concret. Il y a, et c'est ce que je montre à la fin, influence mondiale sur le champ intellectuel mondial, parce que ça existe, il y a un champ intellectuel mondial de ces productions théoriques américaines, parce que à cause de la puissance de ces universités, de la puissance de ces éditeurs universitaires, et bien l'université mondiale s'abreuve à tout ça. Donc ça, c'est quand même, c'est certes un effet indirect, mais c'est un impact certain, parce que il y a des pays qui ne sont pas les États-Unis où le type de discours politique fomenté dans l'université a un véritable impact sur la société et sur l'éventuelle résistance à un ordre politique. Enfin, donc là, de ce côté-là, ça, moi j'insiste, c'est important. C'est d'ailleurs intéressant qu'ils ne lisent pas les Français directement, mais qu'ils les lisent pour la plupart du temps via leurs commentaires américains. Donc ça, c'en est un. Et puis, je vous dis, il y a cet aspect de, un peu plus existentiel, donc plus anecdotique. C'est vrai que ça n'aura pas d'impact décisif sur l'avenir de l'Amérique, mais du fait qu'un grand, grand nombre, finalement beaucoup plus grand, relativement que chez nous, de ces étudiants auront croisé ces noms, auront croisé trois concepts de noms propres qui leur seront familiers. Ça ne changera pas leur vie, mais il y a là matière à des croisements, à des combinaisons qui ont moins lieu chez nous, parce que c'est quand même pour les happy few.
Je pense que c'est plus que croiser en réalité, c'est-à-dire que le changement qu'il y a eu dans le vocabulaire, l'intégration par tout le monde, la nécessité de faire attention aux mots qu'on emploie dans la vie quotidienne, etc., c'est un impact énorme en réalité, beaucoup plus. Oui. Moi, je pense.
Oui, ça vient de là. Enfin, il y a convergence, c'est pas causal, c'est pas une...
c'est un besoin système.
Ça vient des polémiques universitaires des années 80, donc c'est directement un produit de la polémique, peut-être pas théorique, mais de la polémique sur la question identitaire.
C'est l'usage du langage à des effets sociaux, directs. C'est assez clair.
Mais c'est vrai, alors ça relie à ce que vous disiez, le rapport français à l'objet. C'est vrai que il y a un rêve du performatif. C'est vrai que finalement, moi, à la fin, je me retrouve avec une position plutôt critique, parfois un peu ironique, ce qui est facile parce que l'objet est tellement vaste qu'on ne devrait pas. Mais parce qu'il y a la frustration de ce vieux complexe du rêve des idées incarnées, du rêve de l'intellectuel efficace, qui jamais n'aura été théorisé, voulu, fantasmé aussi intensément qu'aux États-Unis dans ce cadre-là. Pour prendre un caterpillar pour écraser une mouche, enfin, avec des effets effectivement, limités. Donc, cette frustration-là, et cette espèce de rage a posteriori contre l'isolement structurel de l'université, tous ces intellectuels que je passe en revue, dont les œuvres sont incroyablement riches théoriquement et politiquement, qui ne font que écrire pour leur père, que répondre aux méta-commentaires de leurs concurrents, au lieu effectivement d'avoir le réflexe plus français, mais c'est pas le même champ intellectuel, de s'adresser comme ça en d'haranguer les foules de mortels loin de l'université. Donc bon, évidemment c'est frustrant de voir que tout ça n'a lieu que dans le douillet cocon universitaire, mais c'est peut-être ce qui explique effectivement parfois une légère acrimonie, mais bon, n'empêche que ça a un impact. Enfin, ça me semble que...
L'origine historique, c'est la gauche non communiste américaine des années 40-50.
Et elle s'est constituée.
Oui, elle s'est constituée. En fait, dans les années 80, ils se sont trouvés, compte tenu de ces vogues-là, des gens comme eux se sont retrouvés, comme dirait Bourdieu, les dominés du champ universitaire, ceux dont on ne veut pas, ceux qui ne sont pas sexy, ceux dont les propositions réactionnaires n'ont plus du tout la cote. Alors évidemment, si on suit cette logique bourdieusienne, ils ont accumulé une rancœur et un ressentiment qui peut expliquer la rage avec laquelle ils ont produit des discours inverses. Mais c'est des universitaires, bien sûr. C'est-à-dire qu'on distingue toujours chez Bush les fondamentalistes religieux et les universitaires. C'est des universitaires, mais leur vraie origine, en fait, c'est l'espace public, l'espace intellectuel public du New York des années 40-50, ce qu'on appelait les New York Intellectuals, c'est-à-dire vraiment cette tradition d'une gauche anti-stalinienne, celle de Partisan Review, celle de revues d'ailleurs marxistes hétérodoxes, et puis ce long trajet, enfin maintenant on connaît cette histoire, il y a quelques bouquins qui l'ont montré, ce trajet qui les fait dériver, bon, je parle de 60 ans, donc il y en a beaucoup qui sont morts en chemin, mais qui les fait dériver, qui les fait critiquer la marche pour les droits civiques des années 60, au nom effectivement d'un universalisme, au nom des Lumières, c'est-à-dire qu'on peut pas, là c'est du séparatisme, c'est dangereux, qui les fait, bref, radicaliser leur discours, passer d'un anti-stalinisme à un anti-libéralisme au sens américain.
On est en train de voir la même chose en France avec le mot républicain. Oui. On a sous les yeux exactement le même type de phénomène avec la redéfinition du républicain autour du débat sur l'école. Hein. C'est tout à fait caractéristique. Il me semble que le républicain d'aujourd'hui, c'est un scénario du même type que les néoconservateurs américains. Alors dans des milieux, évidemment...
Il y a un cousinage très étonnant d'ailleurs, parce que ouais, c'est ce que j'ai expliqué à mes étudiants aujourd'hui, c'est que je leur présentais un livre, il faut bien leur présenter la pensée française dans toute sa diversité, La défaite de la pensée d'Alain Finkielkraut, et je leur disais, c'est exactement, c'est l'équivalent structural de The Closing of the American Mind de Alan Bloom, donc je ne sais plus quel est le titre.
Un grand admirateur d'Alan Bloom.
Voilà, ils se sont trouvés amis en fait en se lisant aussi, et donc il y a, ça c'est sûr qu'il y a des positions structurales équivalentes. Dans ces débats et les néoconservateurs américains ont leurs équivalents français qui n'aimeraient pas être qualifiés de néoconservateurs, mais qui le sont néanmoins. Mais ça nous éloigne du objet.
Bien, merci.
Ouais, je voudrais juste dire, parce que ça va s'interrompre, dire un mot de conclusion. Je voudrais remercier François Cusset et redire qu'il nous rend présent à l'esprit trois ou quatre questions fondamentales, des questions impossibles à résoudre, mais qu'il est absolument nécessaire de laisser vivantes et actives en nous. La première, c'est la question de Mallarmé. Quelque chose comme les lettres existe-t-il ? Ou la littérature, mais finalement c'est la même, on n'a même pas besoin de la paraphraser. La deuxième, c'est quels usages possibles. La troisième, c'est qu'est-ce que c'est qu'une position critique. Comment tenir, construire et tenir une position critique. Il y a un devoir, me semble-t-il, c'est probablement le devoir de l'intellectuel de construire une position critique. Et la quatrième, c'est comment vivre ensemble. Parce que le problème aussi, c'est ça, le fonctionnement des campus américains, c'est comment vivre ensemble. C'est un mode de vivre ensemble qui n'est pas le même. C'est pour ça que Marielle parlait de pacifier, cohabitation pacifiée par rapport à la frontière guerrière, prédation, etc. Comment vivre ensemble, c'est la question de Barthes, évidemment. On en avait parlé.